sais, je viens du milieu de musique classique où on apprend dès le départ que le temps, la seconde, c'est important. Puis là, ben, ça a un côté pervers, ça, parce que aussitôt qu'on est en retard, aussitôt qu'il y a de quoi, on fait, je veux dire, on file pas. Là. Moi, là, y a, si tu recules, il y a 25 ans, puis que tu prends moi qui est pris sur l'autoroute, qui va arriver en retard à un rendez-vous, ou qu'on s'en va même dans une activité, puis que j'attends après les filles ou Caro ou quoi que ce soit, hey, je venais hors de moi, là, en dedans, là. Puis forcément que ça paraissait, tu sais, sur ton castolaire, tu sais, qu'est-ce que t'attends des autres. Puis ça, là, ça, j'ai beaucoup amélioré ça. Puis maintenant, moi, si je suis en retard, je suis en retard, tu sais. En dedans, des fois, ça travaille un peu quand même, mais je suis en retard.
Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit un homme. C'est sûr que vous allez dire, comme moi, que c'est un homme de cœur et aussi un homme de voix. C'est un homme qu'on a connu pour sa voix et maintenant... Il prête sa voix aussi à d'autres musiciens, à des acteurs, à des actrices, parce qu'il est devenu, vous allez voir, un grand gestionnaire au Québec, ce qui est assez surprenant. Moi, je ne l'aurais pas vu venir là, mais je trouve ça vraiment extraordinaire que ce soit lui. Il va nous en parler. Marc Hervieux, bienvenue.
Allô, Marie-Claude. Quel bonheur de te retrouver puis d'être assis à une table avec toi puis de jaser.
Écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Marc. Ouais. Il s'est passé plein de choses dans ta vie. Je te suis sur les réseaux sociaux. Et on ne s'est pas parlé, mais j'ai l'impression de t'avoir suivi. Ouais. Mais ce que je suis en train de dire aux gens, c'est que quand j'ai su... que tu avais un nouveau poste comme gestionnaire, un haut fonctionnaire au Québec. Alors, raconte-moi ce qui s'est passé au cours... Ça fait un an et demi, là. Ouais.
En fait, c'est arrivé, dans le fond, il y a à peu près 2 ans, quand on m'a approché. Et moi, je venais de finir d'animer la soirée bénéfice du Concours musical international de Montréal que je fais à chaque année depuis des années. Grosse soirée au Ritz où, tu sais, j'anime, je présente, j'encante. On ramasse de l'argent, tu sais, pour l'œuvre, le grand concours international. Puis quand je suis descendu de scène, il y a une dame qui vient me voir, qui dit « Écoute, je suis une chasseuse de tête. J'ai été mandatée par le gouvernement pour t'approcher. » Et puis, ben là, tu dis « Coudonc, aussi, j'ai fait de pas correct. » pour te demander si tu veux prendre la direction générale des conservatoires de musique et d'art dramatique du Québec. Donc, moi, évidemment, je connais l'institution. C'est là que j'ai étudié. Mais j'ai toujours gardé contact aussi. Donc, je sais l'historique depuis 30 ans que j'y suis parti. Puis, je sais que récemment, donc, un peu avant qu'il m'approche, il y avait eu une possibilité de nommer quelqu'un. Ça revirait de bord. Ça n'a pas marché. Puis là, il m'approche. Moi, jamais j'ai vu ça venir.
T'aurais tellement pas comme donner ton nom là, pour ça.
Non,
là.
J'avais pas appliqué. Moi, je sais que le poste était ouvert, mais j'avais pas appliqué. Et en fait, ils ont la nouvelle présidente du conseil d'administration, Monique Leroux, a comme décidé de refaire ça autrement. En fait, une feuille de critères. Tu sais, qui pourrait être le gestionnaire, le directeur général? Puis mettre des noms en bas. Je sais pas combien ils en ont mis de noms, puis je sais pas combien ils ont rencontré de personnes. Mais quand ils m'ont rencontré, ça a été particulier parce que moi, sur le coup, je pensais que je me faisais pas niaiser, mais jouer un tour, tu sais. Fait que je cherchais les caméras cachées un peu. Puis je me suis dit, je vais dire à la chasseuse de tête, j'ai pas le temps de t'en parler de ça, on s'en parle cette semaine, on s'appelle. Si elle insiste pour en parler là, c'est parce qu'il y a des Kodak quelque part.
parce qu'il faut faire une émission.
Là. Fait que là, elle dit, OK, parfait, on s'appelle demain. Ou, en tout cas, elle me donne c'est quoi. Fait que là, je dis, hey, c'est sérieux. C'est particulier parce que le matin, j'avais discuté de radio, d'une émission de radio, d'un gros poste. Puis là, j'étais comme dans la même journée. C'est-tu bizarre, tu sais? Et en même temps, là, ce qui m'a frappé à ce moment-là, dès ce moment-là, je savais pas si j'allais dire oui. Mais là, j'ai jamais pensé dire non parce que je me disais, hey, on dirait que je viens d'avoir un message de transmission. Tu sais, j'ai fait beaucoup d'affaires, moi. Tu sais, j'ai diversifié mes choses. Par choix, par goût, par plaisir. Puis là, ben peut-être que je suis rendu à transmettre. T'sais. Fait que là, je suis rentré dans une espèce de vraiment un tourbillon de négociations. Puis là, on est en avril 2022, 1er juin 2022, donc j'ai été nommé au Conseil des ministres comme directeur général des conservatoires de musique et d'art dramatique du Québec. Il y en a 9. Il y en a 7 en musique, il y en a 2 en art dramatique, Montréal, Québec, Trois-Rivières, Chicoutimi ou Saguenay, je devrais dire, Val-d'Or, j'étudie Trois-Rivières, et Rimouski, et Gatineau, voilà. Donc, on est dans 7 régions du Québec, et puis, c'est de la très, très belle jeunesse. Tu sais, c'est de la jeunesse qui se passionnée, qui se donne, parce que, tu sais, apprendre un instrument de musique pour arriver au niveau que nous, on exige, c'est une institution qui a 80 ans, qui a été fondée par Wilfrid Pelletier, ça prend un talent, ça prend surtout, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonne volonté et de détermination, de passion, je dirais même jusqu'à dire de l'acharnement.
Et des enseignants passionnés.
Et exactement, l'infrastructure là, pour te donner ce qui va faire que tu vas devenir ce musicien-là ou cet acteur-là. Et nous, au conservatoire, c'est extraordinaire, tu sais, je veux dire, la structure qui a fait ses preuves avec tous ceux que je pourrais nommer là, qui sont sortis soit de l'art dramatique ou de la musique. Puis, tu sais, aujourd'hui, ben mettons juste là, tu sais, mettons, je t'en nomme 4, facile, là. Mais je peux t'en donner 200, mais mettons, je te dis Yannick Nézet-Séguin, Marie-Nicole Lemieux, Marie-Josée Laure, Robert Lepage, Fabien Cloutier, Mona Chakri. Là, je peux partir.
T'es absolument passionné, là.
Ouais, c'est ça. Ben, mais j'étais surpris parce que quand j'ai dit oui, j'ai eu peur. Tu sais, je me suis dit, je suis capable de faire ça?
Mais c'est un maudit beau challenge.
Oui, mais la première fois que j'ai dit, écoutez, je suis pas un gestionnaire.
Non, mais t'as eu peur quand dans ta vie, quand on t'a offert un contrat?
Ben, t'as raison. C'est-à-dire que j'ai souvent eu peur, mais j'ai toujours pensé que j'étais capable d'aller au-delà de ça. J'ai eu peur. Puis, écoute,
mais peur
je raconte
comme anxieux, comme stressé?
Non, peur pour dire, j'ai-tu la capacité de faire ça?
Ah oui, t'as déjà eu ce doute-là, toi?
Oui, je l'ai des fois. Mais, comme je te dis, ce qui vient toujours avec ça, c'est la certitude que je suis capable de le faire. C'est bizarre, hein? C'est paradoxal. Mais, tu sais, là, c'est sûr que c'était autre chose. Tu sais, c'est gérer plusieurs dizaines de millions par année. C'est gérer élèves et profs, 1300, 1400 personnes. C'est amener une institution qui est ancrée dans des traditions. Moi, pour moi, ce qui est important, c'était de dire tradition puis innovation. Rester, respecter la tradition, mais être aussi en même temps dans l'innovation. Comment on fait ça? Comment on va convaincre aussi ceux qui sont bien installés dans la tradition qu'on peut faire tout ça, mais avec une nouvelle façon de le faire. Alors, tu sais, c'était tout ça. Puis je raconte à la blague, tu sais, moi, je suis arrivé le 22 août 2022. Je suis installé à mon bureau à Québec, dans cet édifice spectaculaire du ministère de la Culture. Là, il y a une fille qui est venue des finances qui m'a dit, c'est ça tes codes pour approuver les trucs. Ah, regarde, tu fais ça, OK. Elle est partie. Puis là, j'étais tout seul dans le bureau, puis je me disais, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu sais, c'est comme...
Vertigineux.
Vertigineux. Mm. Puis je me suis donné le temps. Tu sais, j'ai loué... Mon bureau est à Québec. Donc, je passe à peu près une moitié de semaine à Québec. Des fois plus, des fois moins. Des fois, je pars à Val-d'Or. Des fois, je pars à Rimouski. Des fois, selon le conservatoire. Ouais. Et puis, au début, je louais un petit appart-hôtel là, à la semaine parce que, bon, je savais pas si je dis... Peut-être que je me donnais la possibilité de dire hey, finalement, c'est pas pour moi. Mais j'ai été happé par ça. Puis écoute, puis c'est des grosses affaires. Tu sais, c'est gérer des conventions collectives, c'est du budget, c'est de la vision, c'est essayer de mener à terme un immense projet à Québec où je réunirais dans un même building les deux conservatoires, la direction générale, puis plein d'organismes culturels que j'imagine, tu sais. Puis c'est d'avoir ces idées-là, puis c'est d'être aussi à l'écoute de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, des profs, des élèves aussi. Tu sais, c'est... En tout cas, j'adore ça. Mais, je sais pas si ça paraît, mais j'adore
mais
ça.
Oui, et tu sais, c'est pas parce que tu pouvais pas faire autre chose. Je trouve ça beau que c'est quelqu'un qui t'offre ça, quelque chose que t'as pas pensé. Tu te dis, j'ai peur, mais je le fais pareil. Mais en même temps, tu t'es dit, si ça marche pas... Se donner le droit de dire, j'ai un engagement, mais si ça ne me convient pas, ça va s'arrêter là.
Oui, c'est ça.
Ça aide, ça. Ça, il y a une leçon de vie dans ce que tu viens de dire.
Bien, moi, je dis toujours à mes employés, parce que, tu sais, on peut, à la direction générale, tu as les 9 conservatoires, puis tu as la direction générale. Puis la direction générale, c'est une très petite équipe. Les gestionnaires, on est 6 m'incluant, tu sais, donc les finances, la secrétaire générale, les études, les communications, les ressources humaines. Moi, je dis toujours à tout le monde, écoutez, là, attention, là. À tous les jours, on reçoit, ça tire dans notre sens, là, de la part des 9 conservatoires. On reçoit des dossiers extrêmement complexes d'employés mécontents ou d'élèves mécontents ou de griefs ou de situations X, Y, Z. Mais je dis toujours à mes employés, vous savez quoi? Le conservatoire, il a 80 ans. Il a été créé bien avant nous. Puis le conservatoire, là, il va nous subsister bien après nous. Ouais. Fait que quand on s'en va à la fin de la journée, on met ça de côté, là, tout ça, là. Puis le lendemain matin, on reprend exactement où on l'a laissé. Mais c'est important de le faire de cette façon-là, parce que sinon, on va être tout le temps dans ça. Tu sais, dans le fond, gérer ça, c'est recevoir beaucoup plus les problèmes que les belles choses. Mais c'est de transformer en même temps les problèmes en belles choses.
Est-ce que plus jeune, tu aurais pu faire quelque chose comme ça? Est-ce que ça prend comme une maturité, une expérience de vie?
Ça, je pense que oui. Je pense que ça prend une maturité, ça prend une expérience de vie, mais une expérience du
milieu,
terrain.
Ouais.
Moi, j'ai été assez vraiment, comment je dirais ça, très touché par l'accueil que j'ai eu du milieu musical et théâtral. Tu sais, j'avais déjà, musical bien sûr, mais j'avais un peu des fois de temps en temps le pied dans le milieu théâtral, fait qu'il y avait quand même pas mal de monde qui me connaissait. Donc, j'ai reçu un accueil vraiment très chaleureux. Bien sûr, il y a des gens pour qui ça faisait pas l'affaire, que ce soit moi qui étais là, qui soit là. Mais ça, c'est correct aussi. Puis ça, on sait pas ça quand on est plus jeune. Quand on est plus jeune, là, on veut donc plaire à tout le monde, puis on se concentre sur ceux qui nous aiment pas. Mais plus vieux, tu comprends que tu plairas jamais à tout le monde, puis je vais me concentrer sur ceux qui aiment ce que je fais. Mm-hmm. Tu sais, je le comprends, puis je le respecte, ceux qui n'ont pas la même vision que moi ou qui trouvent que je suis peut-être pas à ma place. Mais ceux-là, je me dis, j'y peux rien. Je vais me concentrer sur ceux qui embarquent dans cette passion-là, cette vision-là, ce désir-là d'amener cette institution-là vraiment plus loin. Tu sais.
Bravo! T'es prêt à ouvrir ton jeu?
Oh my God!
Moi, ça me touche ce que tu racontes. Alors voilà, le jeu. Il y a des cartes vertes qui sont des questions génériques, mais quand même qui peuvent t'amener dans des zones personnelles. Cartes jaunes, elles sont plus spécifiques à toi. Mm-hmm. Les cartes rouges sont pour toi. Puis tu vas partir avec ton jeu après. Hein. Le jeu est fait pour toi. Il y a des cartes mauves qui sont des cartes on te met dans des situations particulières.
Okay.
Tu comprends, c'est plus des cartes qui font réfléchir.
Okay.
Si tu décides de répondre à une question mauve, tu peux me poser la question de ton choix. Et tu as accès à un joker. Donc,
si je ne veux pas répondre à une question.
Ben oui,
genre.
Parce que, évidemment, je pose des sous-questions. Donc, donc, ça se peut qu'à un moment donné, moi, c'est juste que ça me permet d'aller là où je veux. Et je sais que si toi, tu as un malaise, ben tu m'arrêtes. Mm-hmm. On part à une autre question. Donc, on veut pas que tu te sentes mal. Mais voici les questions vertes. Donc, tu les brasses sur la table. Tu m'en donnes 4. Je vais te les lire. Tu vas en choisir une et je vais en choisir une.
Je t'en donne 4.
Oui, tu m'en donnes 4.
1, 2, 3 et 4.
Voilà. Merci.
Celle-là, je les remets là.
Oui.
OK.
À quel endroit te sens-tu en pleine possession de tes moyens? Quel est le trait de caractère sur lequel tu as dû travailler? Quelle est ta définition du mot « famille »? Quelle place prend l'amitié dans ton quotidien?
Donc,
J'en
choisis une?
Oui.
Ah, bien, tout de suite, je te dirais quel endroit je me sens...
En pleine possession de tes moyens?
En pleine possession de mes moyens. Je te dirais que je suis assez confiant quand même. Tu sais, je suis quelqu'un de confiant. Mais l'endroit où je sais que je suis totalement pleine possession de mes moyens, c'est sur la scène. Tu sais, moi, j'ai pas le trac. OK? J'ai l'excitation, le plaisir d'aller faire quelque chose, mais j'ai pas le côté négatif du trac, là. Tu sais,
mal de
être
cœur,
trop nerveux, ouais. Mal de cœur.
Oublier tes paroles.
Oublier, ouais. Tout ça. Puis même si ça peut arriver, on dirait que j'ai confiance là, en mes moyens. Mais jusqu'à maintenant, peut-être que dans la vie, comme c'est normal, on vieillit. Des fois, peut-être que ça va changer. Un artiste avec qui j'ai fait... à un moment donné, j'avais fait la tournée des chansons de Brel. On était 10 artistes féminines et masculins. Et puis, un des artistes qui était dans cette tournée-là qui m'avait dit, « Moi, Marc, plus je vieillis, à chaque jour, le track est de pire en pire. » Parce que des fois, j'ai l'impression de perdre mes moyens avec l'âge, tu sais. Puis moi, j'ai pas touché à ça encore, tu sais. Je suis dans l'année de mes 55 ans. J'ai pas touché à ça. Récemment, je fais une pièce de théâtre, là, ces temps-ci. Tu sais, j'en ai pas fait des tonnes. Puis, tu sais, je fais plein d'autres choses. Puis, hop, c'est un mois et demi qu'on l'a pas joué, on la refait. Puis, hop, on arrête, puis on la refait deux fois. Écoute, il peut arriver n'importe
okay, même
quoi
quand
sur
joues.
La scène. On dirait que mes possibilités de contrôle sont infinies. Parce que j'ai confiance en mes moyens, j'ai confiance en ce que je suis capable de rendre pour le public, mais ce que je suis capable de faire avec mes collègues sur scène. Je me sens bien. Là.
Te souviens-tu de la première fois que tu as connu ça sur scène?
Oh, oui. Je pourrais pas mettre une date, mais je me souviens d'un opéra, c'était Bohème, où je suis par terre en train d'entendre la musique de l'introduction d'une pièce là, qu'on va faire, là, qui est un duo, puis de me dire « Oh my God, quelle chance exceptionnelle que j'ai d'être là, d'être engagé, de pouvoir faire mon métier autant que je le fais, de pouvoir être passionné puis démontrer cette passion-là avec cette musique-là puis ces personnages-là, parce que j'ai toujours joué des personnages là, plus passionnés que...
Moi, je t'ai vu la première fois dans Néligan.
Ouais.
Jouer. Je t'ai vu dans Starmania lyrique. Ouais. Je sais pas si on l'appelait lyrique, mais je me souviens, dans Néligan, moi, tu m'as renversé. Tu sais, t'as une qualité de présence. Mais partout dans ta vie, tu as cette qualité de présence-là, mais sur la scène, elle est déculptée.
Ça, c'était spécial, Néligan, tu sais, parce que j'ai fait trois fois productions de l'opéra Néligan. Puis, à chaque fois, avec Normand Chouinard comme metteur en scène, et puis son idée de départ à Normand, c'était que le vieux Néligan que je joue soit là du début à la fin. Parce que c'est lui qui voit sa vie, qui revoit sa vie. Donc, on voit des pans de sa vie quand il est plus jeune, quand il est avant d'être interné, après quand il est interné, puis tout ça. Mais il est toujours témoin de ce qui se passe dans sa vie. Donc, ça faisait que, tu sais, je dois être là tout le temps. Mais il y a des grands moments où tu es sur scène puis tu dis pas un mot, mais tu es témoin de ta vie. Fait qu'il faut que les gens sentent que tu es le spectateur de ta vie. Mais être le spectateur de sa vie, là, c'est quelque chose. Tu sais, c'est pas comme juste être spectateur de quelque chose qu'on voit. C'est sa propre vie. On le sait qu'on revoit quelque chose qu'on a vécu. Puis avec le recul à ce moment-là, fait que qu'est-ce que ça nous fait, tu sais? Fait que j'ai beaucoup travaillé là-dessus en me disant, ben, faut que je vois ça d'un autre œil, puis que je démontre aux gens à quel point je sais que j'ai vécu ça, puis il y a des affaires que les gens sentent que je leur vivrais, d'autres affaires que je revivrais pas comme personnage. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça.
Mais c'est quand même, c'était quand même un exercice incroyable d'être sur scène en silence et d'occuper la scène.
Ouais.
De savoir que tu es là. Tu sais, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils doivent parler pour... en télé, je veux pas juste parler de la télé, les gens vont se reconnaître dans d'autres situations, mais tu sais, qu'ils vont arriver autour d'une table et ont l'impression qu'il faut qu'ils parlent, faut qu'ils parlent. Alors que la qualité d'écoute, la qualité de présence vaut souvent 1000 mots.
Ben oui, bien sûr. Hey, écoute... Moi, c'est drôle qu'on parle de ça parce que je pense pas jamais vraiment avoir parlé de ça, mais moi, j'aime beaucoup la danse. La danse me fascine. Et la première raison pourquoi la danse me fascine, c'est qu'ils expriment des tonnes d'émotions sans jamais dire un mot.
C'est vrai.
Puis moi, là, ça me fascine parce que moi, je me sers toujours des mots. En chantant, en jouant au théâtre, en faisant mon métier de gestionnaire, en parlant aux gens, en expliquant les choses. Les danseurs, là, je trouve ça fascinant. Ils expriment tout ça, mais ils disent pas un mot. J'ai une admiration plus grande que nature
mais
pour les danseurs.
Mais c'est révolution.
Ben, écoute, si tu veux me voir broyer,
c'est révolution.
Viens me regarder écouter Révolution. Je veux dire, je pleure. Tu sais, là, je me donne. Tu sais, je vois le travail qui est fait. Je vois la passion. Ça, ça en est de la passion.
Ah,
parce que c'est
beau.
Le métier de scène, on parle de scène, là.
Ouais.
Le plus dur métier de scène, c'est danseur. Parce que c'est un métier où il faut que tu te donnes constamment, que ton corps soit constamment parfait, que ton corps est malheureusement souvent blessé. Et puis, c'est l'art aussi qui va laisser le plus de séquelles sur ton corps à la fin de ta carrière. Parce que tu vas être blessé de partout, puis tu vas avoir mal, puis ça. Et c'est l'art aussi qui fait pas gagner beaucoup de sous. Hein. On faut être honnête. Donc, tu sais, moi, j'ai vraiment un respect immense pour les danseurs.
En tout cas, moi, Révolution, tu sais, j'aimais déjà la danse, mais moi, je suis comme toi, là. Il y a aucune émission que j'ai écoutée où je n'ai pas pleuré. Puis des fois, c'est dans la réaction des maîtres.
Ouais.
Dans leur réaction me fait pleurer quand ils parlent, quand ils savent les efforts, quand ils mettent en valeur ce qu'ils viennent de voir.
Ouais.
C'est...
Quand ça raconte une histoire, là, je deviens... Ah. Là, je veux dire, tu sais, je sais pas, c'est pas très long, les numéros qu'ils font.
Non,
là.
C'est quelques minutes.
Hein? Mais des fois, là, il y a des histoires spectaculaires qui nous sont racontées, puis tu dis, j'ai tout compris. Est-ce que j'ai tout compris ce que le danseur ou la danseuse ou tout ce monde-là voulait me raconter ou en tout cas avait pensé? Peut-être pas. Mais c'est pas important pour
t'as
moi.
T'as l'émotion.
Exactement. C'est qu'il y a quelque chose qui m'a été donné, transmis, puis que j'ai compris avec ce qu'ils m'ont offert. Moi, tu sais, c'est facile. Il y a toujours de la musique, puis il y a toujours des mots. Fait que... Puis s'il n'y a pas de musique, il y a des mots.
Mais il faut quand même dire quelque chose, Marc. Souvent, tu chantes dans des langues qu'on ne connaît pas
et
on a l'émotion.
Oui, mais ça fait partie justement de mon grand, grand, grand plaisir. Puis moi, je me suis toujours dit, je vais attacher une importance capitale à l'articulation pour que tout le monde entende dans la salle des mots, des phrases, puis même s'ils ne les comprennent pas, aient l'impression d'avoir compris, parce que dans le fond, au bout du compte, ils se sont fait leur histoire. Tu sais, je dis souvent ça dans mes spectacles à la blague, tu sais, faites-vous votre histoire, puis le premier qui finit attend l'autre.
Est-ce que tu sens que tu as un pouvoir, justement, je parle aux chanteurs lyriques. Quand tu arrives et que c'est le silence et que cette voix-là envahit, tu as fait les plus grandes salles du monde, ta voix, là... La salle, elle est à toi, là, tu sais.
C'est sûr qu'on finit par comprendre l'effet qu'on a sur quelqu'un. Moi, un jour, l'affaire là, qui a été le plus beau cadeau là, dans ma carrière de chanteur, c'est le jour où j'ai compris, puis je me souviens, je jouais à l'Opéra de Montréal, je jouais à l'Opéra Pagliacci, un opéra c'était l'opéra que je rêvais de chanter dans ma vie. Tu sais, quand tu atteins quelque chose en disant, là, cet opéra-là, c'était ça que je voulais. Après, là, je suis content de jouer tout ce que vous allez m'offrir, mais c'était ça que je souhaitais. C'est l'opéra dans lequel il y a le fameux « Ridi Pagliaccio sul tuo amore infranto ». Puis c'est la base des arts de la scène parce qu'il commence en disant « Vesti la giubba e la faccia in farina, la gente paga e rider vuole ». Ça veut dire « Mets ton costume, maquille-toi, les gens ont payé, puis ils veulent rire ». Ce qui se passe dans ta vie, on s'en fout, the show must go on. Et puis c'est la base de la scène, ça, tu sais. On pense souvent à ça, tu sais, les grands acteurs qui sont des clowns tristes, tu sais, hein, qui nous hypnotisaient sur scène ou au cinéma ou à la télé. Puis finalement, on apprend que dans leur vie,
ça allait pas.
God, ça allait pas. Mais il y avait ce principe-là, tu sais, the show must go on, tu sais. En tout cas, tout ça pour dire que je me souviens très bien, j'étais en coulisses, on venait de finir de jouer. Il y a quelqu'un qui arrive vers moi que je ne connais pas, qui est illuminée dans son visage pour me dire « Monsieur Hervieux, là, ce que vous m'avez fait vivre ce soir, là, c'était spectaculaire, ça se peut pas, blablabla. » Puis là, il est là, puis tout ça. Puis moi, niaiseusement, comme un épais, là, je lui dis « Ah, ben merci beaucoup, Caroline Debbins. À soir, c'était moins bonne qu'avant-hier, mais hey, vous êtes super fin. » Là, j'ai vu un petit peu de déception dans sa face. Puis là, on a parlé un peu, puis il est parti. Puis là, après, j'étais dans mon auto, j'en allais chez nous. Je me suis dit « Hey, t'es vraiment un connard, Marc Hervieux. »
C'est l'ego qui a parlé un peu, hein?
Ouais, puis t'as pas le droit de péter la balloune à quelqu'un comme ça qui a reçu quelque chose. Puis que là, toi, t'arrives, puis là, écoute, lui, il a trippé, là.
Puis, il s'en fout un peu d'avant-hier.
Complètement, il n'était pas là.
Il n'était pas là, il ne sera jamais là, là.
Et au-delà de ça, ce que ça m'a fait réaliser, c'est qu'on ne peut jamais sous-estimer l'effet qu'on a sur quelqu'un quand on est sur scène. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe devant nous. On ne connaît pas les gens. On peut avoir... D'ailleurs, j'ai toujours dit, c'est flyé. Quand on joue sur scène, il y a du monde qui sont devant nous. Il y en a plein, c'est du bon monde. Puis il y en a peut-être que... Je voudrais pas connaître leur squelette dans le placard. Mmh. On ne sait pas qui est devant nous. Mais il y a aussi des gens qui vivent une situation X, Y, Z, peu importe. Là. Puis que là, par ce que tu leur donnes, puis ce qu'ils vivent, ben pendant 2 heures de temps, ou 3 heures, ou 1 heure, ils ont oublié ça. Tu les as transportés ailleurs. Puis ça, là, on doit avoir un respect immense de ça, tu sais, comme artiste. Parce que hey, c'est quelque chose là, d'avoir ce privilège-là que de faire oublier tous les tracas de la vie de quelqu'un qui est vraiment dans le trouble. On a eu cette force-là. Fait que tu sais, des fois, quand on dit un médecin sauve des vies, là, nous autres, on ne sauve pas de vie, là, mais on les sauve pas. Mais en tout cas, des fois, on les embellit un peu. T'sais. Puis ça, moi, le jour, ce soir-là que j'ai compris ça, j'ai dit à quelqu'un « Ouais, hier, j'étais meilleur. » Lui, il m'a trouvé bon ou elle m'a trouvé bon ce soir-là. Là.
Mais c'est sûr qu'il ne s'attend pas à cette réponse-là.
Ben non.
Mais
non, franchement.
Mais c'est un apprentissage.
Oui, puis tu sais, le monde de la musique classique, de l'opéra, ben, c'est toujours la quête de la perfection. Si j'ai 25 notes aiguës à chanter un soir puis qu'il y en a 24 qui sont spectaculaires mais qu'il y en a une qui est ordinaire, ben je vais penser à celle-là, ou en tout cas, la plupart des chanteurs ou des musiciens vont penser à celle-là. Le pianiste qui va accrocher, il va avoir joué 3 millions de notes cette soirée-là, de même. Là. Pour y en accrocher une, ben, il pense juste à cette maudite note-là qui a accroché. C'est ça qui n'a pas de bon sens.
Ouais, c'est comme si, entre justement, mettons, des cours au conservatoire, par exemple, où on doit performer parce qu'on a une note, ou on est évalué sur scène. Il n'y a personne qui est évalué de cette façon. Tu sais, quand même, moi, là, quand je faisais des entrevues, là, puis là, des fois, tu sais, il y a des années, on avait des cartons, là, puis là, ben, tu sais, des fois, moi, t'as pas posé cette question. Moi, mais c'est qui le sait?
Exactement.
Il n'y a personne qui a des cartons chez eux, là. La personne, elle disait de quoi de tellement intéressant. Mm-hmm. Mais c'est un peu ça. Mm-hmm. Tu sais, l'émotion doit t'emporter aussi comme musicien sur la scène. Sûr. Puis des fois, l'émotion, ben, ça fait que ta note, c'est pas ce que ça. Mais tu viens de vivre un contact avec l'humain, comme tu le dis.
Tu sais, je te parlais de la pièce de théâtre. Dans toutes les représentations, des fois, on a des grands bouts où on ne joue pas. Fait que quand on revient, des fois, il y a une nervosité. Ben, il n'y a pas si longtemps, on se retrouve. Ça fait un mois et demi qu'on n'a pas joué, on joue. Puis là, écoute, il arrive un mélange dans les répliques. Là, écoute, il y a comme une page et demie qui saute, minimum, peut-être deux. Puis là, moi, je m'en rends compte, mais je m'en rends compte là avec bonheur, avec plaisir. Je reviens plus tôt, puis là, j'enchaîne 2 répliques, puis je vois dans les yeux de ma partenaire de scène qu'elle comprend très bien qu'oups, j'ai sauté quelque chose, on revient en arrière, on fait réplique là, on repart. Au bout du compte, on a tout dit ce qu'on avait à dire, pas dans le même ordre qui est écrit dans le texte original. Est-ce que les gens savent ça? Non.
Non.
Alors, tu sais, à moins d'un opéra que tout le monde connaît, à moins d'une réplique que tout le monde connaît, bien sûr.
Mais... Un Carmen, par exemple.
Ouais, t'sais. Exact. T'sais. Mais sinon, je veux dire, tu sais, la performance humaine, c'est merveilleux.
Mm.
Tu sais, être sur scène, puis donner quelque chose. Oublions jamais que l'artiste qui est sur scène, là, il fait une prestation avec sa propre vie au moment où il fait la prestation. Peut-être que dans sa journée, là, ça a vraiment très mal été. Il y a peut-être eu une nouvelle exceptionnellement difficile, tu sais. Puis le soir, ben, il va donner au public quand même le même bonheur, tu sais. Puis ça fait partie... Mais ça fait grandir qui on est comme artiste après. Puis souvent, pour moi en tout cas, mettons quelqu'un va me dire « T'es pas tanné de chanter le Minuit chrétien, t'es pas tanné de chanter l'Ibiamo, t'es pas tanné de chanter quand t'es parti, ou peu importe la chanson. » Je vais dire « Ben non. » Parce que d'abord, à chaque fois que je la refais, là, je la refais avec la personne où je suis rendu. Puis je la fais aussi avec un nouveau public devant moi à chaque fois. Puis le plaisir que je vois dans les yeux des gens, écoute, il est merveilleux, là. Tu sais, je faisais le show décembre. Puis dans le show décembre, c'est un bel exemple parce que c'est un feu roulant. Mais des fois, le spotlight n'était pas comme sur moi. Fait que ça faisait que pendant qu'il était sur quelqu'un d'autre, je pouvais vraiment voir les gens. Puis là, je voyais des familles de une génération à quatre générations plus loin, ensemble, certains qui rient, certains qui sourient, certains qui pleurent. Là, tu fais comme, wow, quel privilège. Tu sais, quel privilège de faire ce métier-là. Tu sais.
C'est le fun d'être public. C'est le fun d'être sur... Tu sais, je t'écoute parce que moi, j'aime être... Moi, j'étais un public, puis j'aime donc aller voir des spectacles.
Oui, puis tu y vas beaucoup.
J'y vais beaucoup, puis tu sais, décembre, bon, ça a été retiré, puis ça m'a vraiment fait quelque chose aussi, parce ouais. que, bon, moi, décembre, j'étais allée voir ça comme par hasard, que j'ai offert en cadeau. Puis je me suis assise là, puis je me suis fait prendre au jeu. Je suis revenue un enfant de 5 ans.
Ouais, ben oui.
Tu sais, c'est extraordinaire.
Et moi, quand je suis du haut de mon jubé, là, puis que je finis la première partie avec le Minuit chrétien, puis je vois...
Vu chanter le Minuit chrétien, déjà!
Je suis tellement haut. Ouais, ben, dans une situation particulière, ça, c'était spécial. C'est à Saint-Sauveur, l'église
ouais.
de Saint-Sauveur.
Ouais.
Mais pour finir sur
Tu parles quand t'étais sur
décembre. Quand je suis dans le jubé, là, dans décembre, puis que moi, j'ai une position incroyable où je vois la salle au complet devant moi, que le cœur se met à chanter en plein milieu avant que je revienne, j'ai la chance de regarder tout le monde. Puis là, je les voyais. Là. Je voyais des grands-pères, là, des colosses, là, pleurer, là, comprends-tu, là, être en pleurs. Là. Puis là, on finit. Puis là, c'est l'espèce d'ovation. L'ovation, c'est pour la performance en partie, mais c'est aussi pour tout ce que le moment présent a donné, a rappelé aux gens. T'sais, leur vie, leur enfance, leur adolescence, leur famille, leurs souvenirs, les bons, les mauvais, les tristes, les heureux. Ça, l'ovation, c'est jamais juste
ouais.
pour le...
Mais je trouve que tu nous donnes une leçon aujourd'hui de dire, tu sais, quand on est public, on fait aussi partie du spectacle.
Eh bien, nous autres, on a besoin de vous autres en
mais c'est pas clair, et c'est pas toujours évident pour tout le monde.
Tu sais, c'est quoi le meilleur exemple? La pandémie. La pandémie, là, moi, j'ai pas arrêté de faire des spectacles, j'en ai fait sans arrêt. Avec l'OSM, avec l'Orchestre de Sherbrooke, mes musiciens à moi, juste mon pianiste, je faisais des apéros musicaux le dimanche après-midi, autant que des spectacles que les gens achetaient des billets, avec tout le grand déploiement, avec l'Orchestre Symphonique. Imagine, Orchestre Symphonique de Sherbrooke ou Orchestre Symphonique de Montréal, je chante, là. Je suis à la Maison Symphonique. Puis quand je finis ma chanson, là, l'orchestre arrête, moi, j'arrête.
Il ne
se passe rien. Rien. Puis là, je sais qu'il y a une caméra au loin, que je m'adresse à cette caméra-là. Mesdames et messieurs, maintenant, nous allons faire tel temps, tout ça. Rien. Il se passe rien. Tu n'entends rien. Là, tu dis, hey, attends une minute, là, le public, je sais pourquoi il faut qu'il soit là. Puis plus tard, dans la pandémie, j'ai fait aussi, j'ai fait les cinéparcs. Les gens étaient dans leur voiture. Ils nous entendaient sur scène, direct dans la radio.
Ouais.
Puis nous, sur scène, on avait juste les moniteurs de scène. On n'avait même pas ce qu'on appelle un pilier. Des... On n'avait même pas de son qui sortait dans la... Ça. Écoute, tu sais, quand c'est l'été, là, quand il y a bien des bébites qui durent 24 heures,
oui,
là,
les mannes,
les éphémères, ouais, tout ouais. ça. Je marchais sur la scène, je marchais sur ces mannes parce qu'il y avait un tapis de mannes. J'entendais le cric-croc des mannes que j'écrasais. Fait qu'il ne faut pas que le son soit bien fort.
Tu chantais devant des voitures.
Puis tu chantes devant 400 voitures qui sont là, qui te klaxonnent puis qui te flashent les lumières. Tu te dis, hey, j'ai-tu hâte de retourner en salle? Fait que, tu sais,
J'avais jamais
tu comprends, moi. Hey, puis là, moi, je chantais, c'était pas pire. Les humoristes. Ils étaient sur scène, ils faisaient des jokes. Il y a personne qui riait. C'est tough, ça, là, là. Écoute, mais on l'a vécu.
Fait qu'on l'apprécie-tu, le public?
Fait que quand le public a recommencé à revenir... Hey, quand j'ai fait toutes les séries du Canadien de Montréal jusqu'à la Coupe Stanley, là, pendant la pandémie, la première série, c'était contre les Maple Leafs de Toronto. Je chantais l'hymne national. Il n'y avait aucun spectateur d'admis dans le Centre Bell. J'écoutais, je chantais l'hymne national, qui passait à la télé, je m'assoyais dans l'estrade vide, complète du Centre Bell, je regardais le match de contre les Maple Leafs, j'entendais les joueurs se parler entre eux autres, parce qu'il n'y avait rien. Quand le public est revenu, on a-tu capoté? Hey, on le savait en maudit qu'on ne veut plus jamais qu'ils repartent.
On les aime, le public! On l'aime, notre public! Hey,
écoute!
Je vais passer à une autre question. Quel est le trait de caractère sur lequel tu as dû travailler?
Ah, moi, je peux être, malheureusement, je suis patient, puis quand ça explose trop. Tu sais, je pars en monologue, moi. Tu sais, je veux dire, je suis trop fâché, puis je laisse pas une seconde à l'autre pour s'expliquer ou quoi que ce soit. Si je suis parti, je suis parti. Ça, j'ai travaillé beaucoup, puis il me reste encore du travail à faire là-dessus.
Attends, on va reculer dans le temps.
Ouais.
Parce que, tu sais, quand tu parles pas, là, c'est cette période-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, t'sais? Tu sais? Sais-tu que la situation te dérange?
Oui.
Mais pourquoi tu parles pas, mettons? Je pense que ça va répondre à bien des questions, à bien du monde, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui sont en retardement.
Oui, ouais, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que j'étais conscient des conséquences après. Puis c'est pas le fun, les conséquences après, parce que des fois, les paroles ont dépassé ta pensée. Ouais. T'as été ben trop fâché ou t'as levé le ton. Ben, moi, si je lève le ton, je veux dire, tu sais, ça, c'est sûr que ça...
Ça fait peur.
Ça fait peur, tu sais. Mais même avec mes enfants jeunes, tu sais, comme on chicane tous nos enfants un jour dans la vie, là. Mais te rendre compte après que t'as été ben trop intense dans... Tu sais, t'as pas été...
Mais tu le vois dans le regard de l'autre, là, comment il reçoit cette...
Ben oui, puis c'est décevant de soi, tu sais. C'est très décevant, c'est poche, tu sais. Mais je prétends pas avoir amélioré ça à 100%, mais je réussis à l'améliorer petit peu par petit peu, tu sais, à me remettre en question, à me dire « Hey, là, t'as plus le goût de ça ». Mais avec l'âge, je me suis rendu compte aussi que ça vient, ça, où tu dis « Ah,
Mais est-ce que tu arrives à nommer les choses avant justement que cette charge-là explose?
Oui, c'est quand même un peu désamorcer. Beaucoup mieux maintenant, beaucoup mieux. Beaucoup mieux tenter. Mais comme je suis un passionné, des fois je ne suis pas rendu à l'étape de péter les plombs, mais de la façon que je l'exprime, déjà ça
surprend.
Ça étonne quelqu'un, tu sais, parce que je suis passionné, parce que je suis intense, parce que je fais rien à moitié. Moi, on parlait de ça au début, de se dire, oui, je peux avoir peur, mais je vais toujours essayer ce que j'ai dans la tête.
Mais est-ce que tu trouves que quelqu'un de passionné comme tu es, c'est exigeant pour l'entourage?
Oui, je suis prêt à avouer ça. Parce que, puis, je me suis souvent rappelé à l'ordre en me disant, fais attention, exige pas de tes enfants ce que tu exiges de toi-même. Parce que je le sais que je suis très exigeant envers moi. Tu sais, que je vais pousser... Je les vois pas, les limites. Il n'y en a pas de limites. Je veux dire, je suis capable d'aller au plus loin que loin. Puis, je me dis, ben, on peut pas demander ça des gens. Tu sais, il faut respecter ce que chacun est. C'est pas facile, toujours, mais... Puis les premières personnes impliquées dans ça, souvent, c'est soit notre amoureux ou notre amoureuse, ou soit nos enfants. Puis moi, j'ai essayé, tu sais, parce que des fois, je me trouvais trop sévère, tu sais. Puis je me rendais compte que c'était par rapport à ce que moi, j'exigeais de moi. J'ai eu un père quand même sévère, un très bon père, mais sévère. Donc...
C'est parce que ça vient de là?
Peut-être, là, tu sais, mais... c'est pas tant qu'il était sévère, mais il comptait tellement sur moi, puis moi, je voulais tellement jamais le décevoir que, tu sais, je me suis bâti ça, tu sais. d'être sûr de ne jamais le décevoir. Puis ça, je l'ai vu beaucoup dans les yeux de mes filles. T'sais,
la peur de te décevoir.
La peur de me décevoir.
C'est que t'as
puis ça m'a fait de la peine des fois, là, de la très grande peine. Par exemple, tu sais, quand plus tard, ils arrivent dans les études, puis ils voudraient changer de voie, puis tout ça, puis savoir, au bout du compte, que oups, je l'ai su un peu plus tard, parce que il avait peur de me le dire, parce qu'il avait peur de me décevoir. Alors que, tu sais, ça, là, c'est quelque chose que je, toujours, quand elles me l'ont dit, j'ai dit aux filles, hey, écoute, la vie, là, on va faire des millions de choses, vous pouvez faire tellement de choses. Mais je l'ai senti que c'était la peur de me décevoir.
Donc, tu as comme installé ça dans tes exigences. Comment on arrive à créer ça, ce climat-là?
Ben, j'ai l'impression qu'on ne s'en rend pas tant compte.
C'est
hein?
Ça, c'est pas conscient.
Non,
là.
C'est pas conscient. La preuve, c'est qu'entre autres, quand on en prend connaissance ou conscience par soi ou par quelqu'un d'autre, on est bien déçu de nous, tu sais. Moi, ce que j'essaye surtout maintenant, là, tu sais, j'ai vécu un changement très grand dans ma vie en 2023, tu sais, une séparation après 26 ans de vie commune. Puis j'avais commencé à travailler là-dessus, mais la séparation m'a encore plus aidé à réaliser ça. C'est que je ne veux plus jamais laisser traîner quelque chose. Quand je sens une insatisfaction, un malaise, je veux essayer de le régler tout de suite, ou en tout cas d'en parler tout de suite. Je suis pas bien avec savoir que je déçois quelqu'un par ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit ou quoi que ce soit. Mais encore plus depuis. Tu sais, je le sentais avant, mais...
T'as accepté de faire face?
Oui, c'est ça, tu sais, puis... Tu sais, une séparation, bien qu'elle, mettons, elle se passe bien, ou en tout cas, on dit qu'elle se passe bien, il y a plein d'étages qui sont peut-être pas nommés, là. Puis, ben, c'est pas vrai que ça se passe bien à 100%, mais ça se passe bien dans l'ensemble, disons ça, tu sais. Mais il y a beaucoup d'insatisfaction de part et d'autre. Il y a beaucoup de questionnements. Il y a beaucoup de tout ça. Alors ça, moi, j'essaie de vraiment régler les choses là, le plus rapidement possible.
T'sais. Donc, il y a eu un virage dans ta vie qui est récent, là.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
T'sais. Mais est-ce qu'il y a des regrets? Est-ce que tu dis j'aurais dû parler avant, j'aurais dû agir avant?
Oui. Moi, ma nature fait que je peux les penser, tous ces regrets-là. Mais je pense plutôt au fait que toutes ces affaires-là que je réalise me bâtissent aujourd'hui, tu sais, me font grandir. Puis je pense que faut essayer de grandir le plus longtemps possible. Je reconnais que ni moi, ni probablement personne, on est parfait, puis on est des êtres humains... sans reproche, très jeune. Puis on ne l'est pas plus vieux, mais il y a des affaires sur lesquelles on prend plus conscience.
Mais, puis tu sais, des fois aussi, quand tu es deux personnes qui évoluent longtemps ensemble, tu ne penses pas de nommer tout non plus.
Non.
Tu sais, puis là, ben toi...
Il y a une routine, tu sais, il y a des choses qui sont sous-entendues ou entendues même. Puis on vit avec, puis on se le dit pas, puis tout ça. Puis à un moment donné, ça finit par nous rattraper, probablement. À un moment donné, des différences aussi, tu sais, qui nous rattrapent. Mais là, je parle des différences entre deux amoureux, des différences entre un père et ses enfants, des différences... Il faut accepter les différences.
Oui, puis on évolue différemment aussi au fil du temps. Tu sais, des fois, on a de la misère avec nous autres mêmes.
Oui.
C'est de mettre ça en commun. Mais est-ce que, tu sais, une fois que ça a été... que vous en avez parlé, que vous avez pris cette décision-là. Comment tu t'es senti après?
Bien, c'est sûr que, tu sais, c'est une montagne russe, hein? C'est vraiment des hauts et des bas pendant longtemps. Parce qu'il y a des fois où tu te sens libéré, tu te sens déchargé d'une pression terrible. puis en même temps, tout à coup, elle revient d'un coup, puis tout à coup, tu pèses 4000 livres de plus sur tes épaules parce que tu te dis, ben, soit j'aurais dû le dire avant, soit je l'ai mal dit, soit pourquoi j'en ai pas parlé avant, soit pourquoi...
Tu revisites
ouais, c'est ça, cette vie-là. Puis là, à un moment donné, moi, dans ma nature à moi, je me flagelle pas là, pendant longtemps. T'sais, moi, j'avance, je me regarde en avant. Je vais me voir l'avenir avec des projets, avec des toutes sortes d'affaires. Fait que c'est sûr, je regarde par en avant. Je regarde rarement en arrière. Mais force est d'admettre qu'une séparation, moi, en tout cas, ça m'a fait regarder beaucoup en arrière. Tout seul. Avec moi. Après que c'est fait, qu'on a parlé, qu'on a discuté, qu'on a pleuré, qu'on a ri, qu'on a été fâché, qu'on a fait fâcher l'autre. Mais moi, tout seul avec moi, j'ai beaucoup plus regardé en arrière depuis un an que j'avais regardé en arrière dans toute ma vie. T'sais, parce que là, tu te rends compte que, oh, écoute, c'est un méchant pan de ta vie.
Mais c'est quasiment le plus grand pan.
C'est 26 ans de ma vie.
26 ans, ta vie active.
Exactement. Puis, je suis chanceux, tu sais, j'ai une super belle relation avec mes filles, mais justement, tu sais, il faut entretenir ça, parce que il y a de temps en temps des insatisfactions, puis c'est ça que je veux pas du tout laisser traîner. Je veux le savoir tout de suite, puis je veux dire, ben si la perception que j'ai donnée ou que je t'ai donnée quand il est arrivé telle affaire, c'était ça, ben hey, je suis désolé, puis je m'en excuse, tu sais, parce que pas juste être désolé, je pense qu'il faut.
Donc ça, c'est nouveau pour toi de...
Ouais, plus, parce qu'avant, je pouvais avoir vraiment souvent tendance à être justement dans l'espèce de monologue, sans laisser trop de place à l'autre, tu sais, pour expliquer. Parce que moi, ma nature, c'est de trouver une solution.
Mais t'es un homme. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose de... Tu sais, je veux pas comme... Mais je pense que les hommes et les femmes, il y a quelque chose de, des fois, on a envie d'être entendu et... Vous avez envie de nous apporter une solution, mais c'est pas tant ça. On la connaît la solution. On a envie d'être entendu. T'as trois filles.
Oh, mais j'ai tellement vécu ça moi là. Puis moi je l'ai vécu de façon particulière parce que dans les premières années de notre vie de couple et de notre vie de famille, moi j'étais parti tout le temps. Je veux dire, tu sais.
Toi t'as fait le tour du monde. Là.
Ben j'étais parti beaucoup, tu sais.
Mais t'avais Europe, des belles conditions. C'est ça, tu s'en allais dans des opéras, je veux dire.
Mais tu sais, les gens réalisent pas à quel point dans tout ça il y a quand même une grande solitude.
Mm-hmm.
Parce que quand tu finis de jouer, même si t'as eu une ovation exceptionnelle là, tu t'en retournes dans un hôtel tout seul, puis tu vas aller manger tout seul, puis bon, des fois tu vas
Mais en même avoir... temps, ça fait une grosse différence avec ta famille.
Oui. Puis quand tu appelles ta famille, ben, toi, tu viens de vivre un buzz incroyable. Elle va te conter que, je sais pas, moi, un problème niaiseux dans la maison ou l'enfant qui a pas dormi ou qui a la diarrhée ou que tout ça. Puis toi, tu veux régler ce problème-là parce que tu te sens coupable d'être loin.
Mm-hmm.
Fait que là, tu veux régler ça. Fait que là, finalement, à un moment donné, tu fais ça pendant un bout. Puis là, à un moment donné, quand tu reviens, tu te fais dire, là, tout ce que je voulais, c'est que tu m'écoutes. Ah ouais, OK. Mais c'était bon aussi, il me semble, de régler le problème. Mais on s'entendra jamais là-dessus. Puis je le comprends maintenant. À l'époque, je pouvais me dire, mais oui, mais là, au moins, j'ai essayé de régler le problème. Mais c'est deux réalités, deux solitudes qui se rencontrent, tu sais. Fait que, comme l'absence, parce que je partais chanter, tu sais, puis de retrouver mes filles quand je revenais, tu sais, ben ça prenait du temps. Moi, j'étais content de revenir. Mais eux autres, ben écoute, t'étais pas là, t'étais pas dans ma vie pendant longtemps, là, des grandes périodes. Fait que...
Faut que tu te réapprivoises.
C'est ça. Mais toi, tu voudrais que ça se fasse d'un coup. À cause de ma nature encore, là. Puis peut-être à cause, justement, que je suis un homme, tu sais.
Bien, c'est ça comme ça, mais c'est une observation que je fais.
Mais tu sais, on s'entend, là, je veux dire, je suis pas ici en train de dire que, mon Dieu, c'est terrible ce que j'ai vécu, puis tout
non,
ça.
Non, mais faut en parler de ça, parce que toutes les familles vivent ce que tu viens de dire.
Ah ouais.
Il y a toujours comme une insatisfaction, donc est-ce que tu m'as entendu? Puis des fois, on comprend pas ce que ça veut dire. Ben oui, je t'ai entendu, regarde, je t'ai proposé d'appeler le plombier quand tu m'as dit ça. Non, c'est pas ça. Est-ce que tu as entendu ma détresse? Est-ce que tu as entendu?
Est-ce que tu as compris?
Oui, exactement.
Ouais, je sais. Puis malheureusement, là, force est d'admettre que il y a bien des fois, puis peut-être même la presque totalité du temps, non, on n'a pas compris. Parce qu'on n'écoutait pas tant. Parce que quand quelqu'un commence à t'adresser un problème, tu es déjà en train d'essayer de trouver la solution. Fait que tout ce qui suit, tu ne l'entends pas, là.
Et l'autre reste comme c'est sur ça. Son appétit. Est-ce que ça a changé maintenant?
J'essaie de... Tu sais, ça reste que...
Ton premier réflexe, ça va être de trouver la solution. Ben ouais, t'es un homme d'action, t'es un homme ça, de...
Puis là, ben ce que j'essaie, c'est de ne pas me culpabiliser de ça, mais en même temps, j'essaie de me dire, ben essaye de d'écouter plus, tu sais, puis essaye d'être plus, tu sais, en retrait pour l'écoute, tu sais, mais... C'est pas facile, parce que c'est pas ça ma personnalité.
C'est pas ta nature, mais...
C'est pas ma nature.
Et peut-être que c'est encore les deux noms. Tu sais, des fois, c'est ça aussi un discours de sourd. C'est quelqu'un qui s'attend à quelque chose, l'autre s'attend à d'autres choses. Finalement, les deux sont déçus.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
Tu sais, elle a pas entendu ma solution, puis moi, je voulais pas de solution. Mm-hmm. Donc, ça se passe dans bien des types de relations. Mais, mais de faire un effort, déjà. Mais c'est vrai qu'on a aussi notre nature.
Oui, exactement. Tu sais, puis, tu sais, moi, j'ai besoin de cette action-là constante. C'est moi, tu sais. Écoute, rajouter là, le conservatoire par-dessus tout ce que je faisais, là, ça n'a pas de sens, dans le fond. Quand tu regardes ça sur papier, il y en a qui vont me dire, mais ça se peut pas. Là. J'ai dit à un moment donné, même aux emplois supérieurs, au gouvernement, je dis, là, il y en a peut-être qui vont faire une plainte, ils vont dire, ça se peut pas qu'Hervieux, il gère le conservatoire avec tout ce qu'il fait, tu comprends? Parce que, mais c'est ça, tu sais. Puis c'est là que tu dis, justement, je revenais à moi en me disant, fais attention, pas exiger des gens ce que toi, t'es capable de faire ou que tu t'imposes à toi, tu sais. Parce que moi, c'est pas une affaire dont on sait, par exemple, de Grégory, tu sais, qui dort 3-4 heures par nuit, puis ça. Je fais ça, moi aussi. Mais je veux dire, je peux pas exiger ça du monde qui m'entoure.
Non, tu peux pas exiger. Parce que t'es pas normal.
Ça, c'est parce qu'on est dans. C'est notre personnalité.
C'est toi qui es atypique, dans le fond. C'est pas une question de normalité, mais ton corps ne fonctionne pas comme la majorité.
C'est ça, mais tu sais, quand quelqu'un te dit, ouais, mais comment t'as pu faire ton émission de radio, écrire un livre.
Non, mais moi, je sais.
Mais
tu sais, moi, la question que j'ai envie de te poser, est-ce que t'as l'impression d'avoir négligé quand même des aspects de ta vie?
Non. Vraiment pas.
Mais tu sais, tu comprends que...
La seule affaire que je trouve dommage, c'était que, tu sais, par exemple, pour l'opéra, quand je faisais de l'opéra à temps plein, c'est qu'il fallait que j'étais parti loin. Fait que ça faisait que... Parce que, tu sais, l'opéra, mettons, ça dure 5 semaines, il y a 3 semaines là-dessus, c'est des répétitions. Bien, tu répètes comme une journée de bureau, là. Tu répètes, mettons...
Pendant le jour.
Bien, à 5 heures, quand tu finis, là, tu voudrais t'en aller chez vous, mais... Malheureusement, tu es à 6 heures d'avion. Fait que tu peux pas retourner chez vous. Ça, c'est la partie que je regrette de ce métier-là. T'sais, maintenant que je le fais plus, que je fais plus des concerts, que je pars pas pour des opéras pendant des longues périodes, je m'ennuie de jouer des personnages aussi. T'sais. Mais bon, tu vois, là, je le fais présentement au théâtre ici au Québec.
Est-ce que tu as le temps de t'ennuyer quand même?
Oui, vraiment. Et j'ai le temps d'être ce que les gens pensent pas. Moi, je suis bien bon là, pour m'effoirer en vacances, là, puis rien faire. Mais si quelqu'un me propose quelque chose, c'est sûr que je vais dire oui.
C'est que tu repars vite.
Moi,
t'es en action. Moi, ça me fascine quelqu'un qui dort peu comme toi, tu sais, mais qui en fait autant, puis qui dit « je m'ennuie aussi de faire ça ».
Ouais.
Mais je comprends que c'était dur à suivre. Oui, quand on est autour de toi, je veux dire, il faut pas vouloir faire ce que tu fais.
Non.
On peut observer, mais ça, on embarque là-dedans, on s'épuise aussi.
Puis c'est ça, tu sais, c'est dommage parce que tu le vois que ça fait de l'insatisfaction alentour de toi, tu sais. Mais qui n'en fait pas d'insatisfaction alentour de lui?
C'est ça, la vie, hein? Alors, t'es rendu au niveau jaune, tu vas tu les brasses et tu m'en donnes 3.
3. OK. 1, 2 et 3.
Merci. Quelle rencontre a fait une différence dans ta vie? Ah, mais regarde, donne-moi ça une autre, parce que je viens de te poser une question. As-tu négligé certains aspects de ta vie? Tu vois, celle-là?
Oui.
Quel est le plus grand legs de ton père? Quel type d'amoureux es-tu?
Ah, oh, c'est dur parce que j'aimerais répondre quasiment aux trois. En choisir une...
Quelle rencontre a fait une différence dans ta vie? Quel est le plus grand legs de ton père? Quel type d'amoureux es-tu?
Je vais peut-être mélanger les deux. Quelle rencontre puis quel legs de mon père.
Parfait.
Quand je suis... Pour démontrer encore, dans le fond, comment je suis, quand je suis adolescent, là, fin de l'adolescence, 18 ans, je suis directeur de l'animation dans une base de plein air à Sainte-Émilie-de-l'Énergie, dans la Naudière. Et puis, dans l'après-midi, la cuisinière fait un infarctus. Nous autres, c'est une base de plein air familiale. Fait qu'il y avait 120 personnes à peu près, matin, midi, soir. Pendant 12 jours, 2 jours de congé, 12 jours, 2 jours de congé. Et puis, cette madame-là qui était spectaculaire, Monique qui avait travaillé toute sa vie dans les camps de bûcherons, qui avait à chaque jour des dizaines d'histoires nouvelles à nous raconter, d'anecdotes, qui étaient drôles, qui avaient un accent pas possible, qui riait, là, qui avait du fun. Elle m'avait enseigné la vie beaucoup, tu sais. Puis bon, elle a eu cet infarctus. Le soir même, le patron, le directeur général, a dit « Bon, ben les filles de la cuisine, vous allez prendre la relève de Monique le temps qu'on... » Les filles ont dit « Non, non, nous autres, on ne peut pas faire ça. » À la surprise, tu sais. Et là, le directeur général dit « Bon, ben qu'est-ce qu'on fait, tu sais? » Je veux dire... Et là, moi, j'ai comme 17-18 ans, là. Puis je lève la main, puis je dis « Ben, je vais le faire, moi. » Tu vois, hein? Toujours là pour me mettre dans le trouble, tu sais. Mais il dit « Ah! » Ben, je dis « Écoute, là, je suis ici depuis un mois. J'ai vu comment Monique a fait. Je sais que pour si c'est du macaroni à la viande, ça prend 3 lèches-frites de cette grandeur-là. Je sais que ça prend. Je l'ai vu faire, je le sais. Fait que je vais le faire. Je vais appeler ma sœur. Ma sœur va venir m'aider parce qu'elle est professeure, elle travaille pas
l'été. Solution.
Exact. Je pense que mon beau-frère et son mari est en vacances, fait qu'il va venir m'aider. Puis lui, ben, je fais des boîtes à chansons avec lui. Fait que le soir, on va faire des boîtes à chansons. Fait que là, je rentre dans la cuisine le matin à 6 heures. Je fais toute la journée. Le soir, à 7 heures, je quitte la cuisine. Je vais en prendre ma douche. Puis à 8 heures, on part une boîte à chansons jusqu'à 1 heure du matin. Puis le lendemain matin à 6 heures, on est là. Puis on refait la même chose. Puis là, on se décide d'écrire des chansons dans la journée aussi. Pour quand on rouvre le panneau, tu sais, c'était les gens qui passaient à un panneau, on leur fait des chansons pendant qu'on fait le service. tu sais, pas de sens. Mais Monique, surtout, un jour, est revenue. Puis elle m'a donné plein de trucs. Puis elle m'a montré. Puis tu sais, c'est là que j'ai eu mes premiers contact avec faire la cuisine, tu sais. Puis un jour, c'était ma fête pour... Elle me disait toujours, Marc, reste pas ici, va-t'en chanter. Toi, t'es faite pour aller chanter, tu sais. Puis je disais, ben Monique, tu sais, comment tu veux que j'aille chanter, tu sais, comment ça marche? Tu sais, j'avais pas fait le conservatoire encore, tout ça. Je sais pas comment ça marche, tu sais, puis peut-être entre nous autres, là, sur le bord du feu, je chante correct, mais dans le grand monde, là, chantes-tu comme du monde, tu sais, moi, de Schlager Maisonneuve. Puis, je suis allé. Puis, le jour de mes 30 ans, j'avais un gros, 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 gros party, puis j'étais en carrière, là. Puis, ils sont allés la filmer, assise dans sa balançoire chez elle. Puis, elle m'a parlé, puis elle m'a dit, je te l'avais dit, hein, Marc, puis tout ça. Puis là, je vois ça. Puis, elle m'a dit, oublie pas une chose, Marc. À quoi ça sert de conquérir le monde si c'est pour perdre son âme? Elle m'a dit, c'est une madame là, qui a travaillé dans les camps de bûcheron toute sa vie. À Saint-Zénon, puis à Manouane, puis tout ça. Elle m'a dit ça. Moi, ça, là, ça m'a rentré dedans, là, comme... Tu sais, c'est comme... Reste les deux pieds à terre, Marc. Tu sais, t'as du succès, ça marche. Les gens t'adulent quand tu chantes, tout ça. Reste calme, mon Marc. Ça, là, ça a été terrible. Mais bien avant ça, puis j'ai compté 3 millions de fois cette histoire-là, mais... Moi, mon père n'avait pas de métier. Il travaillait à l'usine de sucre. Dans le temps, ça s'appelait St. Lawrence Sugar. C'est devenu Sucre Lantique. Et puis, à un moment donné, il a fait une dépression nerveuse. Ils l'ont mis là, à faire des petits travaux. Puis, à un moment donné, là, ça faisait 44 ans qu'il était de service. Ils l'ont appelé dans le bureau. Puis, ils ont dit, « Monsieur Hervieux, c'est terminé. » c'est fini, là, c'est aujourd'hui que ça se termine. Ça se termine quoi? J'ai pas de job. Non, non, c'est fini, fini, vous êtes à la retraite. Lui, il n'a pas vu venir ça, tu sais. Mm. Il a été vraiment... Et donc, lui, il s'est emmené à la maison, puis il était tanné de ça. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai voulu emprunter de l'argent parce que j'avais dit à mon père, je veux faire un chanteur. Puis là, il a dit, tu marques, c'est un hobby, ça. Puis j'ai conté cette histoire-là 100 fois.
Ouais.
Mais tout ça pour arriver simplement à le legs de mon père.
Ouais.
Mon père, il est allé rencontrer la banque, il a signé pour moi, puis tout ça. Et puis, moi, je ne le savais pas. Quand il est mort, j'ai vu qu'il avait signé pour moi. Mais mon père, qui n'avait pas d'éducation, vraiment, avait quand même l'école de la vie, tu sais, en lui. Puis il m'a surtout, à ce moment-là, enseigné la définition d'un seul mot, la dignité, tu sais. Et puis, moi, j'ai pas pu, tu sais, lui dire merci. Il a pas pu assister à ma vie, puis il a pas pu connaître mes filles. Puis ça, c'est un grand regret, tu sais. Mais ces deux personnes-là, tu sais, mon père et...
Momo,
par des mots simples ou en tout cas par des phrases très simples ou des actions, m'ont juste dit, Marc, reste les deux pieds sur terre, tu sais. Puis tout le monde est pareil, puis prends-toi pas pour un autre, puis fais ce que tu as à faire, mais aussi regarde en avant. Puis, tu sais, vois pas que... Tu sais, parce que des gens qui veulent te mettre des bâtons dans les roues ou t'empêcher de faire des choses, tu vas en rencontrer des tonnes. Alors, regarde en avant, reste les deux pieds sur terre, puis ça va bien aller. Fait que c'est vraiment les deux personnes importantes.
Ça a eu écho chez toi, là. Dans
oui, énormément, quoi. Énormément. Puis j'y pense encore, tu sais, à mon... Moi, je parle à mon père à chaque fois avant d'entrer sur scène. Puis pendant que je chante... Il y a des fois, whoop, une petite note aiguë là, que je me dis, oh, elle va passer plus serrée que d'habitude, celle-là. Je dis, pas, chante la dent avec moi. Comme ça, à deux, ça va aller mieux, tu sais.
Il s'appelait comment ton père?
Dollar.
Dollar.
Dollar. Quand j'étais petit, je l'appelais Dollar Pièce.
Donc, Dollar t'accompagne.
Ah oui, vraiment. Puis Momo aussi. Momo aussi, je le sais. T'sais, Momo était. C'était un personnage plus grand que nature, tu sais, avec des expressions, puis avec toute le la simplicité de la vie, mais en même temps la sagesse de la vie, tu sais, dans des mots simples, dans des... Tu sais, c'est des gens que tu n'oublies jamais, là, qui arrivent sur ton passage, que tu n'oublies jamais, 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 jamais. Tu sais, j'ai entendu dans ton podcast notre agriculteur, pas agricultrice...
Marthe Laverdière. Marthe Laverdière,
mais je voulais dire qu'est-ce que son titre, là. Peu importe, parler
horticultrice,
de... Horticultrice. Ouais. Merci, c'est ça que je cherchais. Je l'ai entendu parler, dire une phrase que son père y avait dit sur les larmes qui étaient le...
Qui lave le cœur.
Qui lave le cœur. Ça, Monique aurait pu me dire oui. Ça. C'est ce genre de phrase-là, tu sais, qui
résonne toute ta vie.
Ouais, tu sais, veux pas, ça reste dans ta tête.
Mais tu sais, toi, ça a comme changé ta perception de ce que tu sais de ta vie. Je veux dire, tu aurais pu être comme autrement.
Mm-hmm.
Ils t'ont fait, je trouve ça, des chemins rapides pour comprendre la vie. Ils t'ont offert ça.
Ouais, ouais, ouais. Puis c'est merveilleux, tu sais, ça, c'est des beaux cadeaux.
La question que je vais choisir, quel type d'amoureux es-tu?
Ben, je pense que j'ai changé comme amoureux. J'ai changé, mais j'ai toujours aimer être passionné le plus possible. Des fois, tout ce que je faisais dans la vie a fait que, oups, j'ai moins eu le temps de l'être. Maintenant, je pense que je suis très, très passionné, puis je suis attentif. J'essaie d'être à l'écoute du mieux que je peux. Tu sais, j'ai appris, tu sais, on apprend avec ce qu'on vit, tu sais. Je pense que je suis un bon amoureux.
Es-tu romantique, sentimental?
Oui, ben moi, j'aime beaucoup ça. Romantique, oui. Moi, ouais, je pense que oui. J'aime ça. J'aime organiser pour qu'on se sente dans cette espèce de spleen-là, là, tu sais, romantique. Là, présentement, j'ai une amoureuse vraiment, tu sais, qui est extraordinaire, puis qui est vraiment de ce genre-là. Fait qu'on se complète vraiment bien, tu sais. Puis, tu sais, sans tomber dans... Tu sais, c'est une nouvelle relation. Je la connaissais avant, mais c'est une nouvelle relation. Puis, c'est sûr que des fois, tu vis des affaires qui te font réaliser aussi certaines choses, tu sais. Moi, en décembre 2023, tu sais, le 20 décembre, elle filait pas, on se retrouve à l'hôpital, je vais la rejoindre à l'hôpital, parce que moi, quand je lui parle en journée, elle me dit qu'elle file pas. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je fais de la fièvre, j'ai mal, je suis pas capable de lever mon bras. En tout cas, fait que finalement, je l'appelle FaceTime à un moment donné dans la journée, puis je vois le visage, je dis, il faut que tu t'en ailles à l'hôpital. Puis, parti à l'hôpital à Thetford Mines, puis moi, je suis parti de Québec, je me suis en allé à Thetford Mines, je suis arrivé, j'étais dans une salle d'examen.
L'observation.
Ouais. Le médecin est venu, tout ça. Là, il dit, on va aller vous installer sur la civière, on va faire prise de sang, tout ça. Fait qu'on est allé là, puis là, ça faisait tellement mal, on a demandé un calmant, on avait déjà eu un, mais on avait besoin d'un autre. En tout cas, là, ils l'ont branché de chaque côté. Ils ont donné le calmant. Et puis, quand ils sont partis. Puis là, on a continué à jaser, mais pas longtemps. Puis là, tout à coup, elle me dit... Elle est assise de côté sur son lit qui est avec le dossier relevé, la civière. Puis là, elle me dit, oh, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Pow! Elle perd connaissance. Moi, je me dis, elle a perdu connaissance, tu sais. Elle file pas, tellement pas. Fait qu'il n'y a pas de panique, là. Mais comme je suis là... Je pèse instantanément sur le petit bouton. Là, l'infirmière s'en vient. On est à l'urgence, puis elle s'en vient. Puis de loin, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je dis, elle vient de perdre connaissance, tu sais, puis tout ça. Fait que l'infirmière arrive et instantanément, l'infirmière constate qu'elle est en arrêt cardio-respiratoire. Là, c'est le branle-bas de combat. C'est l'infirmière qui fait des massages cardiaques, qui crie après, reste avec nous, reste avec nous, reste avec nous, qui sonne l'alarme, deux autres qui arrivent, qui débranchent de chaque côté, qui débranchent la civière, puis là, ils partent avec en salle de choc pour la réanimer. Mais moi, je suis dans le coin là, puis j'ai pas vu venir ça, tu sais. Je suis estomaqué, tu sais. Fait que là, j'attends, j'ai un peu perdu la notion du temps. Puis là, ils sont venus me rechercher. Puis je suis allé la voir, mais je ne suis pas rentré parce que là, elle est dans la salle de choc, elle a été réanimée. Il y a 10-12 personnes alentour d'elle. Là, il y a des fils qui sortent de partout. Puis je vois qu'elle est là, on a, comme on dit, un eye contact, tu sais, mais j'attends qu'eux autres finissent par partir puis s'en venir avec la civière. Puis là, on se retrouve là. Puis là, ben là, tu réalises toutes sortes de choses, tu sais. Tu réalises comment tout est fragile, tu sais. Puis c'est cliché de dire ça, mais c'est ça pareil, là. Avant que tu vives une chose comme ça, tu le réalises pas. Là, moi, si je suis parti aux toilettes, puis que je reviens, puis qu'elle est étendue, je sonne pas l'alarme, là, moi. Donc, elle est morte.
Là, il y avait une urgence.
Elle est morte, là. Fait que, tu sais, tu te dis, « Hey, qu'est-ce qui fait que la vie... » nous a, un, amené cette aventure-là, cette épreuve-là, puis deux, nous l'a donné dans l'ordre qu'on l'a vécu, qui a fait qu'elle n'a pas laissé sa peau. Puis, tu sais, elle a des enfants, des jeunes enfants. Et là, moi, après, là, j'étais tellement en choc de tout ça là, que le lendemain, j'essayais de parler. Aussitôt que je me mettais à parler, je me mettais à pleurer. J'étais pas capable de parler parce que Ça m'a brassé pas un peu, là. Tu sais, ça a été... Puis bon, rapidement, ils ont compris pourquoi tout ça est arrivé.
Elle va comment, le présent?
Elle va très bien. Tu sais, elle dit qu'elle... C'est pas, tu sais, elle n'a pas retrouvé encore toute l'énergie d'avant, mais on s'entend que le corps a quand même décidé de s'arrêter, tu sais. Mais tu sais... C'est ces moments-là aussi, tu sais, qui nous rappellent tout le temps à l'ordre, tu sais, que la vie est fragile, tu sais. Ma Chloé, moi, a eu une affaire qu'on peut penser que c'est anodin, là, un coup de chaleur. Mais tout un coup de chaleur, là, était... ça s'est passé dans sa résidence étudiante. On a eu une communication. Je trouvais qu'elle me... D'habitude, elle me répond tout de suite. Là, elle me répondait pas. Là, finalement, j'ai fini par l'appeler, il ne répondait pas, texto, ne répond pas. Appel, là, fini par répondre, mais au bout du fil, c'est presque rien là, que j'entends. Puis elle a fini par réussir à me dire qu'elle est couchée par terre dans sa résidence étudiante, puis qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a. Puis là, on part en vitesse, appelle le 911, bien, je me rends, mais moi, pendant que je me rends, là, son cellulaire est ouvert. J'entends les ambulanciers arriver, cogner, c'est barré, puis je lui dis, dis-leur de défoncer ou ça. Elle n'est même pas capable de dire ça. Puis là, j'avance. En plus, il y avait une sortie d'autoroute barrée parce qu'il y avait une voiture en feu. T'sais. Quand est-ce que ça arrive, hey. Ça, là, tu sais? Là, en tout cas, je roule en fou, évidemment, sur l'autoroute. Puis pendant ce temps-là, je l'ai, là, puis je lui parle, là, puis, tu sais, je sais qu'elle est encore là parce que je l'entends un peu. Là, j'entends les ambulanciers défoncer la porte. Là, ils rentrent. J'entends les ambulanciers commencer, poser des questions. Tu sais, avez-vous pris des substances? Ils savent pas qu'est-ce qu'il y a là encore. Puis là, j'entends un des ambulanciers dire « Les signes vitaux sont presque nuls. » Te dire, là, t'es dans ton auto, tu dis « C'est pas là que je vais perdre une de mes filles, tu sais. » Puis je suis en communication avec Caro, la maman, qui elle aussi s'en vient. Puis écoute, tu sais, c'est évidemment, là, bon, cette histoire-là aussi se finit bien. Puis après, on s'en va à l'hôpital, puis bon, elle est revenue. Puis là, on a eu vraiment l'information sur un coup de chaleur. C'est
mais moi,
incroyable comment c'est
chose,
tough, là. Puis je n'ai parlé au docteur Marquis, le célèbre docteur Marquis,
oui.
qui m'a dit, Marc, t'as pas idée, un coup de chaleur, quand le corps est rendu là, c'est-à-dire qu'il décide de délester tout ce qu'il n'a pas besoin. Donc, elle a perdu connaissance sur le plancher. Il n'y a plus rien qui fonctionne sauf pour respirer et son cœur qui bat. T'sais, c'est fou, là. Même les
parce que là, les reins ont... Tu sais, je veux dire, les poumons...
Ouais, le sphincter se relâche pour pas faire de...
Non,
de,
mais ça,
de
ça veut dire que t'es avancé, là,
oui,
quand ça se passe, là.
Puis ça, tu sais, des fois, on y pense pas. L'été, on voit des gens, là, qui sont vraiment pas bien, là, avec... Hey, écoute, elle, un coup de chat...
T'aurais pu perdre ta fille.
Ouais,
elle aurait pu perdre
la vie. Fait que, tu sais, tout ça dans ta vie, là, tout ça dans ta vie, c'est l'accumulation, puis c'est l'addition de tout... Puis tout le monde, là, je raconte pas ça pour faire de la morale ou faire pitié, mais on vit tout ça. Puis c'est ça qui nous forge plus tard, tu sais, qui fait qui on est, tout ce qu'on a vécu, tu sais. Mais là, moi, donc, ça a été particulier cette année. 2023 a été intense, mais...
Est-ce que ça t'a rapproché de ton amoureuse?
J'étais déjà très proche parce que, entre autres... Parce que c'était une nouvelle relation de quelques mois à peine. Mais c'est sûr que, je veux dire, tu sais...
C'est quelque chose à vivre, là.
Oui, ouais, c'est quelque chose à vivre, tu sais. Parce que pendant un certain temps aussi, tu t'occupes de quelqu'un qui n'a pas de force. Tu sais, que donc... Puis là, c'est ton amoureuse, puis tu... Écoute, tu es prête à tout donner, évidemment, là, pour ça, tu sais. Mais comme on ferait avec n'importe qui.
Ben c'est quand même, tu sais, c'est quand même pas si commun là, d'être à l'orée de la mort.
Ouais, ouais.
Tu sais,
ouais, non, c'est...
De dire j'ai sonné sur la cloche, l'infirmière l'a vu de loin. J'avais, tu sais, tantôt dit j'avais été ailleurs.
Ouais.
J'aurais pas sonné sur la cloche. Tu sais, il y a comme un destin, il y a quelque chose là-dedans.
Oui, il y a un destin spectaculaire parce que. J'aurais pu être juste en train de texter à quelqu'un de ma famille, à sa famille, à quelqu'un d'autre. Moment d'inattention, même si elle dit hop, ça file pas, peut-être que je l'aurais pas entendu. Il y a beaucoup de bruit aussi à l'urgence. À s'allonge, je me dis ah bon, elle se repose.
Mais c'est fou comment ça va vite. Parce que tu peux dire, elle est à l'urgence, elle est branchée,
ouais.
elle est sous surveillance.
Ouais.
Mais c'est comme ça, là.
Ah ouais, puis là, on venait d'arriver. Fait qu'elle avait eu les médicaments, mais elle n'était pas encore monitorée, tu sais. Il y a toujours un moniteur.
Ouais, donc il n'y a rien qui a sonné.
Donc il n'y a rien qui a sonné. Tu sais, j'ai pas entendu le fameux « bi ».
Ouais, parce que ça avait monitoré.
Oui.
Il y a de quoi que ce serait... Tu aurais eu une alarme.
Mais j'ai pas vécu ça, là. Fait que, mais écoute, mais tu dis en même temps, wow, quelle séquence parfaite. Parce que sinon...
Ouais, ouais.
Ça finit pas de la même façon, là.
Ça fait réfléchir.
Fait que ça, dans la vie, là, les séquences, tu sais, quand on se dit des fois, si j'étais parti 2 minutes plus tard, il ne me serait pas arrivé telle affaire. C'est fou, là. T'sais, ça en est un exemple, ça.
Tu sais, la série Plan B,
ouais.
Qui était à Tout TV, ouais. C'est dire on va changer la séquence, mm-hmm. on va revenir en arrière.
Pour pis, juste.
Puis on se rend ouais. compte qu'à toutes les fois qu'on change une séquence, il y en a une autre qui arrive.
Oui.
Ça fait que c'est comme un éternel recommencement
ouais, ouais.
qui a rien.
C'est sans fin.
C'est sans fin, tu peux pas tout réparer. C'est comme il faut accepter de vivre
ouais.
avec la
j'ai
séquence.
Vu, j'ai vu cette série.
Ça c'est fait réfléchir,
bon.
Plan B.
Ouais.
Parce que c'est vrai, des fois, dans notre vie, on se dit, il me semble que c'est un moment-là, je reculerais ça.
Ouais.
Mais en reculant ça, il y a autre chose qui va,
ouais.
qui va se passer.
Oui, exactement. Mais nous autres, on se l'est. Écoute, on en a parlé à outrance là, depuis que c'est arrivé, le 20
décembre.
Mais
c'est très
23.
Récent, là.
Oui, 20 ça décembre fait... 23.
Ben oui, ça fait un mois, là.
Oui, oui. Mais. Écoute, on en a parlé beaucoup, puis on s'est dit, ben, my God, c'est fou, pareil, le destin, tu sais, de dire, ben, oups, c'est juste arrivé, tout est arrivé dans le bon timing, tu sais.
À la seconde près.
Mm-hmm.
On va passer au niveau rouge, tu vas me donner deux cartes. Et là, et l'histoire de ta fille, Chloé, aussi, écoute, je...
Oui, que tu as déjà rencontré.
Que j'ai déjà rencontré, absolument. Donc, ouais. Mais écoute, il y a comme une sensibilisation quand même à faire parce qu'ils ont toujours c'est un coup de chaleur. C'est,
non,
oui,
non,
il y en
c'est
a.
Beaucoup plus important.
Souvent, on va l'associer plus à ceux qui sont chauves,
mm-hmm.
hein, qui vont dire mettre une casquette, c'est un coup de chaleur. Mais tu sais, quand tu n'es pas chauve, on dirait qu'on est moins sensible à ça.
Mais elle, avec ça, là, elle est beaucoup plus fragile à ça maintenant. Elle l'était avant, mais on s'en était pas rendu compte. Mais là, avec le. Ou aussi loin que c'est allé, là, c'est
faut
quelque
que
chose.
Faut qu'elle soit super prudente.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, choisis une de ces deux questions. Est-ce que tu t'es déjà rendu au bout de tes limites physiques ou psychologiques? Ferry chantait « Avec le temps, va, tout s'en va ». Qu'est-ce que le temps est devenu pour toi?
On dirait que j'ai envie de répondre aux deux. Je pense pas encore m'être rendu aux limites physiques et psychologiques. Bien que des fois, je me dis, ben en vieillissant un peu, bien, je me sens pas vieux, puis je suis pas vieux, mais quand même, tu te dis, ben il faut faire attention. Tu sais, moi, j'ai un papa qui est décédé jeune de crise de cœur, d'infarctus à 64 ans. Donc, tu sais, tu te dis, il faut faire attention à ça. Son frère aussi était décédé jeune. Fait que faut faire attention. Mais dans ma personnalité ou dans ce que je suis, il n'y en a pas de limite. Il y en a
mais est-ce
pas.
Que tu vas voir le médecin? Est-ce que tu consultes? As-tu des bilans de santé?
J'y vais de temps en temps. J'y allais plus. T'sais, c'était parfait quand on fait beaucoup de télé, tout ça, pour les assurances, on est obligé de le faire. Fait que j'y allais plus. Là, j'avoue que j'y suis moins allé. Quoique, grâce à une émission que tu faisais, là, j'ai parlé de mes problèmes de peau un jour.
Oui.
Et puis, suite à ça, j'ai dû recevoir 500 messages, Messenger et compagnie, là. Puis, j'avais remarqué qu'il y avait un nom de médicament qui revenait souvent. J'en ai parlé à ma dermato. Et puis, finalement, elle a consulté le rhumato, parce que moi, c'était un problème... Donc, de psoriasis sévère avec des problèmes d'articulation et tout ça. Puis, en tout cas, le médicament pouvait fonctionner pour les deux. Fait qu'ils me l'ont administré. Fait que ça, j'ai guéri de ça. Donc, c'est sûr que pendant cette période-là, qui était pendant la pandémie, j'ai vu énormément de médecins. Mais là, depuis, c'est sûr que là, je me sens sans son parce que depuis à peu près un an et demi, deux ans, mes problèmes sont complètement réglés. Il faudrait que je.
Ben oui, parce que là, Dr Barrette va te parler en étant moi-même parce que, tu sais, Dr Junot, qui est cardiologue, en fait, qui s'occupe de la prévention des maladies cardiaques à l'Institut de cardiologie de Montréal, tu sais, dit toujours que quand dans notre famille, on a des cas. Connu de maladies cardiovasculaires, il dit pas que c'est une chance, mais c'est quand même...
Oh ben, c'est
quand même... C'est quand même un privilège qu'on a, où on peut prendre de l'avance, c'est-à-dire...
Oui, exactement, on a un indice.
On a un indice qui est important, ouais. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'indice, puis ils font un infarctus. Alors moi, j'ai envie de te dire, Marc, tu as quand même des indices dans ta famille,
sûr.
Et là, je vais te faire peur, parce que dans le fond, le docteur Reginaud dit toujours, des fois, la peur, ça fait réagir, mais... si je te demandais quel est le premier symptôme de l'infarctus?
De l'infarctus, je sais que l'histoire du bras, là, l'engourdissement, la pression à la poitrine, mais je ne sais pas s'il y en a d'autres, puis je ne sais pas s'ils sont dans le bon ordre, là, ce que je t'ai donné.
Alors, je vais répondre ce que Martin Genoux... Docteur Barrette va répondre la réponse de Docteur Genoux. Non, mais il disait à chaque fois qu'il venait, alors le premier symptôme de l'infarctus, c'est la mort subite.
Ah, c'est sûr que ça hein, c'est difficile à...
Ouais. Donc, il y en a moins qui vont se rendre à l'hôpital que ceux qui vont avoir des infarctus.
Oui, puis alors... On entend là, dans nos entourages des gens qui...
C'est parce que tu sais, t'es quand même dans cette tranche, t'es dans la même tranche, on a exactement le même âge, Marc. On est dans cette tranche, tu sais, on commence quand même à arriver dans un moment de la vie où il faut vraiment prendre ces indices-là à la lettre.
Oui.
Alors, c'était...
Il faut être à l'écoute aussi.
Oui, il faut être à l'écoute parce que, tu sais, la manière que tu travailles quand même beaucoup et tout ça... Et là, je me sens dans une autre émission. Mais c'est parce que j'ai tellement appris et je trouve que, justement, des fois, on sait des choses, mais on se néglige.
Ouais, ouais.
Puis toi, tu penses à tout le monde, tu veux aider tout le monde, tu as tout le temps la main en l'air quand on a besoin de toi pour des causes ou peu importe. Mais tu sais, je pense qu'il faut que...
C'est drôle, hein? Hier soir, je suis allé chercher ma fille Maxime, la plus jeune, à son volleyball. Elle fait du volleyball à l'école. Puis on était dans l'auto. Puis la semaine passée, ça a donné que j'étais beaucoup à Québec, fait qu'on s'était pas beaucoup vu. Je suis allé la chercher. Des nouvelles, puis comment ça va, puis tout ça. Puis la communication est très fluide, très facile. Puis elle m'a dit, hey, elle le sait pas, là, mais elle m'a donné un choc. Je donnais des nouvelles de tout ce que j'ai à faire, puis tout ça, depuis qu'on est revenu de vacances. On était allé en vacances ensemble dans le temps des fêtes. Elle m'a dit, j'espère que tu trouves du temps pour toi. Hey, j'ai été obligé d'y répondre, non, pas vraiment. Puis depuis hier, j'arrête pas de penser à ça. Je me dis, la petite torieuse.
C'est quoi du temps pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire?
Ben, en fait, moi, j'ai tout fait des affaires que j'avais envie de faire depuis une semaine. Puis j'ai passé du temps aussi où je n'étais pas en train de travailler, là. Mais force est d'admettre que j'ai pas... c'était quand même un feu roulant. Tu sais, même si j'ai fait toutes des affaires que j'avais le goût
c'est
de faire...
C'est comme ça, elle disait à son papa, est-ce que tu vas te poser?
Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Fait qu'elle m'a un peu...
Moi, quand ça vient de ton enfant, hein?
Ouais.
Ça a plus de poids quand ça vient de nos enfants.
Depuis hier, je me dis, la petite motadine.
Écoute, la vérité vient de la bouche de nos enfants. Et tu disais que tu avais peut-être une réponse aussi, mais tu n'es pas obligé de répondre.
Juste un mot. C'est si précieux. C'est si précieux, le temps. Si précieux. Dans ma vie avec la maman des filles, avec les filles, je viens du milieu de musique classique où on apprend dès le départ que le temps, la seconde, c'est important. Puis là, ben ça a un côté pervers, ça, parce que aussitôt qu'on est en retard, aussitôt qu'il y a de quoi, on fait, je veux dire, on file pas. Là. Moi, là, si tu recules, il y a 25 ans, puis que tu prends moi qui est pris sur l'autoroute, qui va arriver en retard à un rendez-vous, ou qu'on s'en va même dans une activité, puis que j'attends après les filles ou Caro ou quoi que ce soit. Hey, je venais hors de moi, là, en dedans, là. Puis forcément que ça paraissait, tu sais, sur ton castolaire, tu sais, qu'est-ce que tu attends des autres. Puis ça, là, ça, j'ai beaucoup, 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 beaucoup amélioré ça. Puis maintenant, moi, si je suis en retard, je suis en retard, tu sais. En dedans, des fois, ça travaille un peu quand même, mais je suis en retard.
Il y a des choses que tu ne contrôles pas.
C'est ça.
Mais c'est vrai que cette notion-là, moi, je me reconnais dans ce que tu dis, c'est chaque seconde compte. Puis moi, c'est quand je pars en vacances. Mmh. C'est le seul moment où ça s'arrête.
Mmh.
Puis je me dis, mon Dieu, que j'aimerais ça, tout le temps être comme ça. Arrêter de...
Ouais.
Tu sais, même les déplacements, tu sais, les déplacements, quoi faire pour minimiser le temps. Tu sais, c'est obsessionnel à un moment donné. C'est vrai que ça impose aux autres qui ne sont pas nécessairement comme ça.
Mais oui.
Mais tu as raison, c'est la musique, toi, qui t'a apporté ça.
Oui.
Tu ne peux pas être en retard aux répétitions, tu peux pas, tu sais, les
retards. Non, parce qu'il y a beaucoup de monde impliqué.
Sans jamais de mise.
Par respect, tu sais.
Mais dans notre famille. Ça ne veut pas dire être en retard, mais prendre le temps.
Ouais.
Hein, aussi.
Ouais.
Est-ce que tu es prêt pour répondre à une question mauve?
Ah oui, moi je suis game de tout. Une. Tiens, celle-là.
Crois-tu qu'il y a une vie après la mort?
Hey, c'est une bonne question. C'est drôle, hein? C'est drôle, c'est difficile à répondre. C'est difficile. Je vais te dire que je suis vraiment pas sûr, mais j'aimerais ça. J'aimerais ça que ce soit vrai, que j'aimerais ça que c'est parce que des fois, je me pose la question, je me dis, admettons, il y a une vie après la mort, ben je souhaiterais aller revoir Dollard, avoir mon père, puis dire, « Hey, as-tu pu voir ce que j'ai fait? » Ou si, dans la vie après la mort, tu ne pouvais pas voir ce que je faisais, ben je vais te le raconter, ce que je faisais. Mais en même temps, je me dis, dans ma vie actuelle, j'ai pas rencontré personne à qui je voulais dire, « Hey, tu sais, là, avant que tu meurs, là, il est arrivé ça. » Fait que dans le fond, peut-être ça n'existe pas, ou peut-être on s'en souvient pas. C'est pas facile à répondre, mais j'aimerais ça. J'aimerais ça aller retrouver Momo, tu sais, puis rire avec Momo, puis plein d'amis qui sont... Moi, mon grand chum, c'était François D'Amour, le frère de Normand D'Amour, le comédien. Hey, on a fait des niaiseries ensemble, là. Ça se peut même pas. Puis décédé beaucoup trop jeune, à la fin cinquantaine, de cancer. J'aimerais tellement ça aller niaiser avec François, tu sais. Mais je ne sais pas s'il y a quelque chose.
Est-ce que toi, des fois, tu penses à ton dernier repas?
Oh non. Moi, tu sais, je suis vraiment très gourmand. Fait que chaque repas est comme mon dernier repas. Comprends-tu? Je me prive de...
C'est quoi ton repas préféré?
Si j'aime ça manger. je suis gourmand. J'aime tout. Des fois, je me rends compte, puis là, c'est drôle parce que Kathleen me dit ça des fois. T'es-tu entendu? Je suis là. T'es bon.
T'es un bruiteur.
Ah, j'aime ça, là, tu sais.
Ouais,
j'aime vivre des expériences de bouffe. J'adore ça. J'adore ça. Je peux pas dire que j'ai tant quelque chose de préféré.
C'est tout.
C'est tout. Tu sais, c'est tout. Puis on dirait qu'en vieillissant, je réussis à apprécier les affaires que j'avais mis de côté dans ma vie. Tu sais, des sushis, par exemple. Je n'étais pas très fan de ça. Hey, là, j'en mange à peu près tous les semaines. Tu sais, c'est bizarre, là. Je veux dire, on dirait que c'est un goût qui s'est...
C'est développé avec le temps.
C'est développé, qui est arrivé. Mais je vraiment, là, moi... Puis moi, j'aime les affaires traditionnelles aussi. Écoute, on vient de passer le temps des fêtes, te dire comment je déjeune, dîne et soupe au ragoût de boulette, là, quand c'est le temps des fêtes. J'aime ça, j'aime...
T'aimes la tablée aussi.
J'aime la table, j'aime les affaires qui sont dans le milieu puis tout le monde pige dedans. J'aime une table remplie de toutes sortes d'affaires. J'aime plus ça que des belles assiettes. Je veux voir toutes les affaires dans le milieu, puis on choisit, puis on prend, puis... Ça, là, je veux dire, j'adore ça, là. J'aime ça beaucoup, beaucoup.
Ça donne faim quand tu racontes ça. Colin, est-ce que tu aurais une question pour moi, Marc?
Attends, que je pense à une question pour toi.
Ouais, tu peux penser à une question.
Hey, tiens.
Vas-y donc.
Peut-être que tu te l'as fait poser, là, dans ton...
Ça se peut, je vais te le dire.
Je sais pas combien de podcasts que tu fais, mais depuis toujours. Assis à ma place.
Ouais.
Mort ou vivant. L'invité que tu aurais toujours voulu ou que tu rêverais de jaser, là, d'interviewer, mais comme là, parce que là, on jase plus que d'autres choses, tu sais. Ce genre de rencontre-là, là, avec qui? Mort ou vivant?
J'ai pas envie de chercher pendant longtemps parce que quelqu'un que qui me vient en tête,
c'est
Edith
parfait.
Piaf.
Ben, voilà.
Edith. Alors moi, Edith Piaf, c'est pas une femme qui a vécu longtemps.
Non.
Elle est morte, c'est beaucoup plus jeune que ce qu'on même. Ouais. Ça avait l'air plus vieille que son âge.
Oui.
Edith, je suis allée dans...
Santé fragile.
Oui.
Intensément. Des épreuves aussi. Hein? L'autre qui meurt dans un amoureux qui meurt dans
elle
un accident d'avion.
Elle attend New York,
puis
qui arrive
donc,
jamais, l'avion, l'avion crash. Elle est transportée, son amoureux qui était beaucoup plus jeune qu'elle, elle est décédée alors qu'elle était avec lui. Il la transporte dans sa voiture morte sur le siège arrière, enroulée dans une couverture. Tu sais, là, c'est...
Oh ouais.
Et cette voix, cette puissance... Et pour moi, Édith Piaf, c'est l'émotion dans la voix. Tu sais, c'est... Si elle aurait pu faire des... Tu comprends, tu sais, sans jamais dire... Ce que tu disais tantôt, c'est de donner un sens aux paroles, même quand on les comprend pas.
Ouais, transporter l'émotion.
Exactement. Pour moi, c'est ça. Puis j'aimerais l'entendre, justement, prendre un pas de recul sur sa vie. Tu sais, comment elle l'a trouvé? Parce que quand on regarde sa vie de l'extérieur, pour toute l'émotion, puis tout l'amour qu'elle nous a apporté, elle...
Ouais.
Qu'est-ce qu'elle retient de cette vie-là, tu sais? Ouais. Qu'est-ce qu'elle n'a pas eu le temps de faire aussi parce que, justement, elle a toujours une santé très, très fragile avec une vie qui ne concordait pas non plus avec cette fragilité-là physique. Alors, moi, j'ai une toile que Sébastien Maltais, qui est un peintre québécois, a fait, une toile d'Édith Piaf. Il la connaissait pas tant, ça fait longtemps de ça, là. Et il est encore... je pense qu'il est encore aux études. Et il a lu... Il a lu une biographie d'Édith, puis pendant la nuit, il a peint cette toile-là, puis elle est dans ma salle à manger. Tu sais, moi, j'ai tous les coffrets d'Édith Piaf. J'adore sa musique, mais c'est cette passion, hein. C'était une femme passionnée. Fait que c'est ça, j'aurais des... Comme femme et comme femme et comme fan... J'aurais beaucoup de questions à lui poser.
Ouais.
Tu sais, une vie écourtée de cette façon-là.
Mais en même temps, la courte vie qu'elle a vécue, c'est comme si elle avait vécu
elle
trois
l'a condensé.
Vies dans ça. Ouais.
Mais tu sais, il y a des fois, il y a des gens comme ça que je trouve qu'ils en font tellement, tu dis.
Ouais.
Tu sais, je pense à Marie-Soleil Touga, par exemple, tu sais, qui a fait tellement de choses. Tu sais, il y a des gens comme ça. Moi, j'ai un ami aussi qui est mort très jeune, mais il faisait tout, Daniel. Je me disais, est-ce qu'il y a comme quelque chose quand même qui comme... Tu sais, comme est-ce qu'on croit au destin ou pas? Je ne sais pas, mais ils sont comme prédestinés, on dirait, à dire s'ils partent, on va dire, bien, ils auront fait beaucoup de choses.
Ouais.
Donc, tu sais, c'est-à-dire qu'elle n'a pas attendu pour agir. Elle, c'est des gens qui sont allés au-devant. Bien, en tout cas, mais Édith, cette passion-là, puis qu'elle vivait au grand jour, là. Tu sais, elle se cachait pas pour vivre ses passions,
exact.
ses amours. Elle les chantait. Tu sais, je me souviens, Charles Aznavour était allé la voir en spectacle. Charles Aznavour n'était pas connu à l'époque. Donc, il était avec sa femme. Lui, il n'a pas une scène d'envie. Il va voir... mais c'est déjà un pianiste. Il va la voir en spectacle. À la fin du spectacle, elle dit, « Est-ce que vous voulez être mon pianiste? » Il dit, « C'est combien? Combien ça paye? » Puis il disait ça en entrevue, il dit, pouvez-vous croire que j'ai dit à Édith Piaf combien ça paye? Édith Piaf, qui est déjà connue, moi, personne ne me connaît. Et finalement, il a travaillé avec elle.
Ouais.
Mais ma première question, il dit, tu sais, quand l'argent devient omniprésent, mais elle l'a vu, ce talent, elle a travaillé avec...
Ouais.
Elle a été capable de mettre aussi les autres en lumière, Édith Piaf. Ses auteurs et tout, en tout cas. Fait que, ouais, c'est une belle question, ça me fait penser à Édith et j'aime cet état
aussi,
d'esprit-là.
J'adore. J'adore, Édith.
Il y a toujours une dernière question, Marc. Tu te vois où dans 10 ans?
Oh, écoute. Moi, j'ai jamais fait de plan de carrière. J'ai jamais imaginé, tu vois, comme là, je me suis retrouvé au conservatoire. J'avais jamais imaginé ça. Dans 10 ans, je m'espère en santé. Je m'espère toujours aussi passionné. Je m'espère aussi toujours capable de faire 12 millions de projets, ou en tout cas, mettons que j'en fais moins, mais que dans ma tête, il y en ait toujours autant. Tu sais, que l'esprit soit toujours aussi vif de vouloir réaliser plein d'affaires. J'espère rendre les gens alentour de moi heureux. J'espère voir mes filles grandir, s'épanouir. Moi, c'est un gros regret dans ma vie, moi, que mon père n'ait pas vu ça, de moi et de mes sœurs et de mon frère. T'sais. Alors, j'espère pouvoir voir ça longtemps, puis en être fier. Puis voilà. Donc, puis 10 ans, c'est rien. 10 ans, je vais juste avoir 64, 5, là. Donc, c'est rien, tu sais, il va rester encore 50 ans à vivre après ça.
Mais ça, c'est pas, il va avoir des médicaments, des choses qui vont nous arriver.
Ben là, ils vont bien se trouver quelque chose. Non, mais tu sais, c'est fou, hein, mais c'est vrai pareil, tu sais, on sait pas, hein, qu'est-ce que ça veut dire. Aujourd'hui, les progrès se font à une vitesse folle, tu sais. Donc, on sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver.
Mais tu l'as dit tantôt, ouais. Le temps, c'est précieux.
Le temps, c'est précieux. Moi, j'ai chanté une fois au balcon d'une... Tu sais, le premier printemps de la pandémie, en direct de l'univers, je suis allé chanter au balcon de la grand-mère d'Antoine Graton. Antoine Graton, le musicien qu'on connaît, là, qui est si talentueux. On est allé chanter ensemble pour en direct de l'univers avec une plateforme qui a monté jusqu'à son balcon. Cette dame-là avait 110 ans. Puis elle était en forme pour 110 ans, tu sais, debout, à se tenir sur le bord de sa balustrade, puis tout ça. J'ai appris plus tard l'été qu'elle était décédée tranquillement dans son sommeil, puis tout ça.
Donc c'est la moitié de ta vie?
Hey, c'est juste la moitié.
C'est ça, t'aurais juste vécu la moitié de cette vie-là.
Il m'en reste pas pire, là.
Fait que... Tu souhaites que du beau, Marc. T'es merci. Dans un virage hein, de ta vie, un tournant
oui.
Que t'as bien pris.
Oui, oui, oui.
Merci
je me trouve bien chanceux, bien merci. Privilégié.
Merci d'avoir pris le temps à travers tout ton horaire.
Là, je commence à me dire quand est-ce qu'elle va m'appeler.
Ben voilà, c'est fait. Puis tu diras à ta fille que tu as pris du temps pour toi.
Ouais,
parce
ouais.
que venir ici,
ouais, ouais.
c'est prendre du temps pour soi.
Oui, puis je suis content de te voir. Je suis content de te retrouver puis de jaser avec toi. J'ai toujours aimé depuis déjà beaucoup d'années.
Tu as toujours répondu positivement. Alors, voilà. Même quand ça n'allait pas pour toutes sortes de raisons, tu t'es toujours rendu à soit à Deux Filles le matin
ouais.
ou soit à Marc-Claude ou même à Virage
ouais.
où j'avais été tournée chez toi.
Oui, exact.
Alors, toujours un bonheur. Merci beaucoup, Marc. En fait, c'était à Simplement Vedette. C'est encore plus loin que ça.
Ah oui,
c'est hey, je
oui,
commençais, oui. je pense, en ouais. 2012, j'étais allée tourner chez toi.
Ouais, je me souviens très bien.
Et merci pour
en
tout.
En fait, je pense que tu es à peu près la seule personne à qui j'ai dit oui de venir tourner chez moi.
Ah oui, ouais, juste ce privilège-là.
J'ai jamais beaucoup accordé ça.
Ça avait été un magnifique tournage où tu t'étais vraiment ouvert.
Ouais.
J'avais parlé à d'autres membres de ta famille. C'était vraiment une belle journée pour moi. Ouais. Merci beaucoup, Marc Hervieux. Merci beaucoup tout le monde. Alors, on se retrouve au prochain podcast. Bye-bye. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.